Bonjour et bienvenue sur Gameloc.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction, comme chaque mercredi. Aujourd'hui, podcast 147, un podcast qu'on ne pouvait pas ne pas dédier à la saga Metal Gear, évidemment, puisque demain sort le nouvel opus, qui est grosso modo Metal Gear Solid 5, hein, on peut le dire.
Totalement. Ouais.
Qui s'appelle en réalité Metal Gear Solid Peace Walker sur PSP. On va en parler plus en détail, puisque évidemment, on a eu l'occasion d'y jouer longuement, surtout toi, Julien, mais aussi Salomé qui est avec nous, Traz, comme d'habitude, et Julo.
Hello.
Qui m'accompagne donc aujourd'hui pour cette grande saga qui a commencé dans les années 80. En réalité, il y a presque 23 ans, voilà. Avec un premier épisode qui s'appelait Metal Gear tout court sur MSX. Et qui a donné donc suite à énormément d'autres jeux. On va y revenir. C'est aussi une saga qui a popularisé un genre nouveau, qui est le genre de l'infiltration finalement. Alors l'anecdote veut que à l'origine, au tout premier Metal Gear, Kojima, donc le créateur de la série, voulait faire un jeu d'action à biscotto comme on les faisait à l'époque, et que le MSX n'étant pas capable d'afficher suffisamment de soldats, il a dû réviser son game design, et donc il s'est dit le joueur devra éviter les soldats au lieu de les abattre.
Et puis aussi, il faut savoir que Hideo Kojima, dans son enfance, était déjà un grand fan de cinéma. Il avait sa petite caméra Super 8, il faisait plein de petits films, il l'a vite transposé dans les jeux, on en parlera tout à l'heure, mais aussi, quand il jouait avec ses potes, il s'amusait à filmer des parties de cache-cache. Et du coup, le cache-cache était l'un de ses jeux préférés.
Meilleure cachette, c'était le carton.
Probablement, en tout cas depuis, il l'a popularisé. Mais c'est vrai que tout naturellement, derrière, il en a créé un gameplay qu'il connaissait bien, le cache-cache. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très sexy. Et on voit que finalement, Metal Gear, c'est l'une des séries les plus légendaires de l'histoire du jeu vidéo sur console.
Clairement. Pour tout un tas de raisons, d'ailleurs.
Un vrai pilier. Après, on aime, on déteste, on ne comprend pas, on est paumé, etc. C'est bien naturel parfois. Ouais. Même nous, vous allez voir dans ce podcast, on connaît bien la série. On s'est renseigné encore plus pour ce podcast, mais c'est tellement gargantuesque, c'est pire encore que Star Wars.
Ah bah oui.
C'est la question qui s'est posée d'ailleurs pour les fans lors de MGS4, qui devait clore la trilogie des Metal Gear,
soi-disant. Ouais.
Et il devait retomber sur ses pattes. Est-ce qu'il a bien fait ou pas? On en parlera tout à l'heure.
En tous les cas, donc effectivement beaucoup de jeux, il y en a plus d'une douzaine. On va pas passer sur tous les jeux. Il y a aussi des spin-offs, des choses un peu moins intéressantes, on va dire. On va essayer de se focaliser plutôt sur les épisodes canoniques qui ont fondé ce mythe, cette histoire, avec les personnages importants, les thèmes soulevés aussi par Kojima. Il y en a beaucoup. Hein. C'est une série qui est assez riche, non seulement narrativement bien sûr, pour son scénario, oui, voire trop riche, mais aussi par les thèmes qu'elle aborde, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas simplement un jeu d'action, il y a un vrai propos derrière. C'est ce qui fait aussi que Kojima est un auteur. Et on reviendra bien sûr donc en détail sur Peace Walker. Tu voulais dire quelque chose?
Les gens qui n'ont pas la vidéo doivent savoir que Julo est en train de décéder. Les gens qui ont la vidéo l'ont remarqué depuis quelques temps, mais depuis tout à l'heure il est comme ça.
Ah putain, ça
va bien. Et j'annonce un gros podcast.
J'ai mal à la tête d'avance à l'idée de parler du scénario de Metal Gear Solid.
Oui, ça peut se comprendre effectivement.
Moi je suis très content que ce soit Raon qui l'anime, parce que
t'as plein de tu vas
pouvoir en parler, parce que c'est effectivement une de tes sagas fétiches, hein, tout le monde le sait. T'as été récemment aussi chez Kojima Productions, vous pouvez voir des interviews, la visite du studio qui est quand même une exclusivité mondiale.
Tout à fait.
Sur Gameblog en vidéo, tu nous parles un petit peu de cette visite, de ce que t'as découvert, parce que c'est l'envers du décor quand même. Alors, c'est là que sont nés tous les Metal Gear.
Explique-nous pourquoi tu es l'homme le plus chanceux du monde, vas-y.
En tout cas, je me considère tel quel, il est vrai. Déjà, il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question, comment ça se fait que vous, Gameblog, vous ayez une telle exclusivité, etc. Pour être très honnête, ça fait des années qu'on suit, à l'époque de Joypad, de PlayStation Magazine, la série des Metal Gear. On a eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer quasiment une fois par an, lors d'un E3 ou lors de ses venues en France.
Oui, ou alors Abercrombie.
Voilà, c'est vrai, à Los Angeles, voilà. Hideo Kojima et son équipe. Et c'est vrai que du coup, une petite amitié légère, hein. On n'est pas les meilleurs potes du monde, hein. Je ne l'appelle pas tous les 4 matins. Bon, enfin bon, on se connaît.
D'autant mieux maintenant, en plus.
J'apprécie son travail, visiblement c'est réciproque et tout. Et donc effectivement, quand il y a eu cette opportunité d'un voyage de presse en France, pourquoi dédié avec un seul média et français? Tout simplement, on en reviendra tout à l'heure, hein, mais parce que dans Metal Gear Solid Peace Walker, il y a un personnage qui est bien réel. Il s'agit de Cécile Cosima Caminades,
qui n'est autre
la fille la plus chanceuse du monde,
mais aussi accessoirement l'attachée de presse de Konami France. Exact. Qui se retrouve donc dans le jeu avec un véritable personnage assez différent du personnage habituel des Metal Gear. qui imite très bien les animaux, en tout cas. C'est riche de plein de significations ou pas. vous qui jouerez, vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc, bah, elle était invitée pour être aussi faire partie du lancement japonais, pour être là. Et c'est vrai que bah, on s'entend bien et que on a eu la chance de pouvoir être les seuls.
Une fois dans ce Saint Graal, donc c'est un grand open space où il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent.
Exactement. En fait, ils ont déménagé il y a quelques années. Maintenant, ils sont dans vraiment le quartier d'affaires de Tokyo que Julien connaît bien. C'est à Roppongi.
Julien.
Oui, c'est vrai. Julien. Et donc en fait, ouais, ils sont à un étage entier qui partage un grand open space qui partage avec l'équipe des PES, vraiment d'un côté et de l'autre. Eux, ils sont au pic des développements. Ils sont une petite centaine de développeurs, ce qui est quand même déjà assez raisonnable, surtout pour une équipe japonaise quelque part, où généralement ils aiment bien avoir une core team assez restreinte, ouais, d'une vingtaine de personnes, et puis l'augmenter en fur et à mesure du développement. Là, c'est un peu le cas, mais là, ils étaient quand même encore très nombreux et ils travaillent sur plusieurs projets que j'ai pu entreapercevoir, mais que malheureusement je n'ai eu le droit de révéler.
Bon, mais... y en a un qu'on connaît déjà, c'est quand même Rising.
Oui, qui devrait être à l'E3 et qui a l'air joli.
Où nous sommes évidemment en ce moment, hein, vous l'avez vu, nous avons ce don d'ubiquité.
Et il n'y aura pas Creed.
C'est donc pour cette raison que nous sommes si bronzés.
C'est ça. Et alors franchement, soyons honnêtes, c'est pas très beau.
Bah, c'est un open space. Hein, bon.
Oui, mais on a l'habitude, il est vrai, on est assez chanceux d'aller chez des développeurs occidentaux. On est allé chez Naughty Dog, on est allé chez Remedy, chez Quantic, chez Polyphony.
Chez Quantic, c'est pas ultra.
C'est pas ultra beau, mais c'est très riche, il y a plein de trucs, il y a des artworks sur le mur, etc. On s'attend à voir la même chose chez Kojima Productions, qui sont très riches, en plus avec un Yoji Shinkawa qui est quand même grave de talent. Ouais. Bah non! Par exemple, les bureaux de Yoji Shinkawa et Hideo Kojima sont côte-côte et ils sont à peu près grands comme, je sais pas, deux fois mes bras. Ils sont minuscules. Ouais. C'est un
bourré de bordel.
Oh là, c'est un capharnaüm, mais incroyable. On avait limite pas le droit de filmer. Ouais. C'est pour ça qu'il y a peu de plans que vous avez vus dans la vidéo et effectivement qu'on a pu vous présenter.
Et est-ce qu'au moins il y a des artworks genre griffonnés sur des petits bouts d'agenda qui sont collés partout?
Alors,
sur les
pas
murs?
Pas sur des petits bouts d'agenda.
Parce
mais
qu'ils peuvent se payer
sur,
les carnets là-bas.
C'est ça. Il y a un mur qui est dédié en fait aux artworks un peu de Yoshi Shinkawa qui est juste en face de son bureau et celui de Monsieur Kojima. Où là il y a vraiment de très belles choses effectivement. Mais on voit un peu leurs inspirations. Il y a énormément de bouquins de mode, il y a plein de livres étrangers, c'est-à-dire que chez Kojima, alors là après il y a des méga fans qui vont faire c'est une honte, mais il a le Grand Bleu en DVD,
c'est une honte,
il a des bouquins de mode français, enfin on voit vraiment qu'ils essayent vraiment, et de plus en plus parce que ça a été confirmé, on a
de s'occidentaliser
aussi, en tout cas de comprendre vraiment ce qui marche ailleurs aussi, pas se renfermer sur le côté japonais, des jeux japonais pour les japonais, et puis si ça plaît ailleurs, bah tant mieux. On a rencontré aussi un français, hein, Teppei Takehana, qui travaille chez Kojima Productions, qui a été le premier en fait non japonais à intégrer Kojima Productions. Lui, ça fait quelques années déjà qu'il est là. Il a bossé, par exemple, c'est le mec qui a fait l'essentiel des animations et des cinématiques de Metal Gear Solid 4. Autant vous dire que le monsieur touche.
Monsieur cinématique de 2 heures, donc.
Non, de 9 heures.
De 9 heures.
Il y a 9 heures de cinématique dans Metal Gear Solid 4. Et
mais ça coûte de 2 heures par 2 heures. C'est lui qu'on doit remercier, donc.
C'est pas lui qui a décidé, mais en tout cas, c'est lui qui a fait qu'elle soit belle.
Ah,
voilà.
Il a essayé de sauver les meubles, peut-être.
Mais
justement.
Très honnêtement, lui, il aurait préféré qu'il y en ait moins. Franchement,
c'est quand même
comme nous tous.
Voilà. Donc, bon, ça grouille pas de... Par exemple, par rapport à Polyphony Digital, donc les créateurs de Gran Turismo, il y a beaucoup moins de goodies autour des PC, etc. Il y en a plein, hein, mais il y en a moins. En revanche, il y a un truc que je trouve absolument génial, c'est quand vous rentrez et tout, bon, il y a l'espèce de grand bureau où sont entreposées toutes les récompenses qu'ils ont eues, comme très honnêtement, 90% des studios de développement chez Naughty Dog, il y a la même chose,
toujours, bien sûr.
Chez Quantic, il y a pareil, enfin bon. Voilà, ils sont contents, et c'est ce que disait Kojima, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est pas pour se la raconter, c'est juste pour que les gens qui arrivent chez Kojima Productions et qui vont travailler voient ce qu'on a fait, se disent, ok, chez Kojima Productions on fait de la haute qualité, j'en serais fier de travailler, de participer à ce genre de projet, néanmoins, j'en assume les responsabilités et je me déchire la gueule, quoi. C'est un peu le message, et je passe devant tous les matins et je fais, oh putain, faut que j'assure. Néanmoins, juste à côté, il y a un truc que je trouve génial, c'est
Kojima. La machine à café.
Non, Kojima, toutes les semaines, en fait, met des propositions de films qu'il y a au ciné à côté de leur bureau à Roppongi, et leur dit, en fait, je crois que c'est le jeudi soir, vous avez le droit de partir du bureau plus tôt si vous allez voir les films qui sont là-dedans. Pourquoi ? C'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait, parce que bon, le mec, ça m'a été confirmé par 12 mecs qui bossent avec lui, il a 450 000 idées à la seconde. Quand il arrive à votre bureau, c'est un ouragan, il fait ça. Le temps que tu réponds, il a déjà balancé 15 autres trucs. Il faut vraiment suivre, ça a l'air d'être assez hardcore. Mais néanmoins, il s'est rendu compte à un moment qu'il parlait et qu'il avait que des références de films, de séries ou d'éléments que les gens avec qui il bossait n'avaient pas. Et les mecs lui faisaient, tu sais, tu fais comme dans le film machin, etc. Et les mecs vous faisaient,
Je l'ai pas vu.
Donc maintenant, en fait, ce qu'il fait, c'est en gros, il incite un peu son équipe à aller, entre guillemets, s'aérer la tête, se cultiver, partager des expériences communes pour après pouvoir justement communiquer plus vite et mieux au sein de son travail. Et je trouve ça assez intéressant.
Donc c'est vraiment Dieu, comme dans Metal Gear, Peace Walker, on en reparlera, mais il modèle vraiment l'homme à son image, quoi, en fait. Même ses employés.
Alors il n'est pas toujours là. C'est ce qu'ils m'ont confirmé aussi les développeurs.
Il est au cinéma pour l'instant.
Alors, très honnêtement, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais vous le dire. Il y a des trucs vraiment rigolos, quoi. C'est un grand immeuble qui fait une vingtaine d'étages, super classe, qui appartient jusqu'au 11e étage entièrement à Konami. C'est vraiment un très bel immeuble, super moderne. Et puis entre le 11e et on va dire le 20e, et ça se trouve il y en a 30, hein, je ne sais plus trop, enfin c'est assez haut. C'est que du privatif. Et c'est pour les super bourgeois japonais. C'est des apparts de ouf, des lofts de malades mentaux. Pour vous donner une idée, moi, mon hôtel était à un petit kilomètre avant. Et de mon étage, j'étais genre au 30e, je voyais le building en face. Et les deux derniers étages, c'est une forêt vierge. Sous verre. Mais une forêt vierge, ça veut dire que c'est avec des vrais arbres, genre qui font 10 mètres, quoi.
En fait, il t'a menti, c'est là où se cache Snake.
Kojima habite là-bas, en fait.
Donc c'est pour les vraiment... ça va. Et Kojima n'habite pas là-dedans, mais Konami lui a payé, en fait, un appart à l'intérieur, dans les étages assez élevés, etc., là où il donne les grandes interviews, où il va se ressourcer et où il va réfléchir. Et alors ça, je ne le tiens pas de Kojima ni d'aucune personne de chez Konami, et j'ai essayé de me le faire confirmer par des gens, les gens m'ont souri, etc. Donc je ne sais pas, mais je le tiens d'un autre développeur qui travaille chez un grand partenaire de Konami, que je ne citerai pas, qui m'ont dit, à cet étage-là, dans le grand hall on va dire le salon, apparemment il a trois tableaux immenses coupé en trois, qui en fait c'est son cerveau scanné, et en fait il se pose devant et il réfléchit.
Bon, chacun son inspiration. Écoute, en même temps,
j'ai envie de dire que c'est assez original.
C'est ce que je pense, cet être est vraiment bizarre.
Bah franchement, pour avoir passé 72 heures vraiment en immersion avec lui, en interview, l'avoir suivi vraiment pendant le développement
et le lancement au Japon,
et le lancement voilà exactement, qu'on vous a fait vivre en vidéo sur Gameblog. C'était très bizarre, parce que effectivement c'est une série que j'apprécie, pas fondamentalement peut-être même pour le jeu, mais pour ce que ça génère, les discussions qu'on a après avec nous ensemble, la manière dont il a su créer vraiment le teaser de jeux vidéo, les montées en puissance, l'art cinématographique du jeu vidéo qui parfois est pas maîtrisé et tout, mais bon, qui est assez passionnante. C'est un mec quand même assez intéressant fondamentalement, et il se marre tout le temps, il est super vif, tu vois dans son regard qu'il y a un truc, il te check, il sort des petites vannes tout le temps. Tu sens en revanche que toute la noria de gens qui travaillent avec lui et tout sont un peu flippés, essayent d'être vachement bien et tout. Il est énormément entouré de nanas, et on en reviendra je crois dans le podcast tout à l'heure, le rôle des femmes dans la sphère Kojima. Mais tu sens fondamentalement le mec intéressant et passionnant et intelligent. Et ce que me disaient les développeurs qui travaillent avec lui, c'est qu'il lit au moins 2 à 3 bouquins par jour. Apparemment, il y a une méthode de lecture au Japon.
Japonaise, oui.
Qui est quasiment photographique. Ça veut dire que c'est pas comme nous, c'est avec les kanji, etc. Et donc, en gros, il peut photographier quasiment la page et la tourner. Et ça prend genre 10 secondes et il a pas lu, quoi. C'est un peu comme notre lecture en diagonale, mais genre voilà. Et il lit genre quasiment comme ça. Donc, il lit vite. Il mate au minimum un film par jour.
Là, vous l'aurez vu pour ceux qui ont revu la vidéo. Mais...
Enfin, c'est un mec qui se nourrit, quoi.
Ouais. Et de toute façon,
il doit quand même avoir quelques prédispositions, parce que je crois pas que tout le monde est capable de lire comme non, ça, même les japonais. Hein, je pense pas.
Je pense que c'est un mec qui veut en faire trop. C'est un mec qui a trop de trucs à dire, trop de trucs à faire, et ça se sent dans
ses
jeux.
Le voit dans l'histoire de la saga. Hein.
Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un mec qui gagnerait à être canalisé un peu plus. Sauf que, entre guillemets, c'est ce qu'on sent aussi un peu, tout le monde est un peu à ses pieds, parce que mine de rien, c'est une série qui cartonne depuis des années, qui génère
pas
un buzz
incroyable.
Pas tant
que ça au Japon, en fait, paradoxalement.
Ce sont 700 000, 800 000, 1 million d'exemplaires à chaque fois. Mais
c'est vachement connu en Occident depuis le premier Metal Gear Solid.
C'est un aura de ouf, Metal Gear.
Et en tous les cas, ce qui est certain, donc, c'est que c'est un personnage qui a énormément de références. On va revenir un petit peu aussi sur les références de la série. Elles ont commencé dès le départ avec le personnage principal, qui est Snake, qui est en fait une référence à Snake Plissken, le personnage de cinéma de...
Interprété par Kurt Russell, non ?
Exact, voilà, qui est interprété par Kurt Russell. Il y a d'autres références, Escape ça a été confirmé par la suite. Voilà.
Tout à fait.
Et là, sa suite qui est beaucoup moins bonne. Mais bon, enfin voilà. Donc, peut-être aussi à cause de... du fameux le eye patch,
le cache-œil,
on dit cache-œil, on dit un cache-œil en français.
Bah
oh, un
pour
bandeau,
ceux
dans un
la
truc,
vidéo
hein.
C'est voilà. Ça quoi, ouais. Voilà, c'est un truc de pirate quoi, c'est quand t'as plus d'œil,
de borgne,
un truc
voilà,
de borgne.
Ou d'homme politique français de droite.
C'est ça, de très droite. Bref, en tous les cas, le problème aussi principal de Metal Gear, c'est que tous ces épisodes en fait décrivent une seule et même histoire, mais pas du tout dans le même ordre de sortie des jeux. Donc c'est un petit peu un problème parce que ça le plus ancien en fait de toute la série n'est pas du tout le dernier à être sorti, c'est Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui est donc
le meilleur,
le 3, alors le meilleur, on reviendra là-dessus après.
C'est très subjectif, Salomé. D'ailleurs on n'a pas dit pourquoi Salomé était là.
Bah, d'ailleurs, pourquoi je suis là ?
Ouais, voilà. C'est parce vrai. Que, parce que c'est...
On va te présenter à Kojima et tu feras partie bientôt d'un nouvel opus. Voilà.
Ah bah franchement, je... honnêtement.
Très bien.
Hein,
très
ayant vu comment il réagit.
Qu'est-ce que
je
dois faire ?
Je pense que t'as tes chances, Salomé.
Je garde mes cheveux blonds, c'est ça ?
Oui, oui, garde-les surtout.
D'accord, très bien. Important. Il faut que je me mette en maillot de bain.
Bon, pas forcément, non. Même si c'est la première fois qu'on voit Cécile dans MGS, elle est en petite culotte. Hein.
Très bien, ça me va.
Sauvez-moi ! Avec un petit accent français très rigolo. Enfin bon, voilà. Mais oui, Salomé, donc, qui est notre chroniqueuse de La fille qui aime les bites.
Oui, c'est
sur,
moi.
Mais on rappelle que ça n'a rien de graveleux. Hein.
Si, c'est très graveleux. C'est tout est contrôlé.
Mais t'es une vraie fan des Metal Gear.
Oui, une grande fan de la série Metal Gear que j'ai découvert quand j'étais vraiment petite et par extension une grande amoureuse folle du personnage de Snake, alors plus précisément du personnage de Big Boss en fait. Alors je ne l'explique pas vraiment, mais en fait ça fait 10 ans que je rabâche à qui veut l'entendre que je veux me marier avec Snake, ou alors je veux passer
Poulpe
au moins une nuit avec
Poulpe
si tu m'écoutes. mais tout le monde le sait, mais en fait je trouve qu'il a vraiment une aura et je n'explique pas en fait mon addiction pour ce personnage. Et c'est pour ça que j'ai suivi la série. J'ai même pleuré quand je n'avais pas la PS3 parce qu'elle était un petit peu trop chère pour mon compte en banque. Et je ne pouvais pas jouer à Metal Gear Solid 4. Et en fait, le personnage de Snake me fascine.
Est-ce que tu connais le prénom de Solid Snake ?
Ah, quand même.
Ah, si. Mon Dieu.
Albert, d'ailleurs, il y a une anecdote Albert. Là-dessus.
C'est David.
C'est David.
Oui, bah oui, David Hater.
Bah, voilà.
Bah oui. Voilà.
Mais il faut
il essaie de me piéger.
Mais il explique pourquoi.
Et voilà, raté. Raté,
alors,
monsieur Raon.
Officiellement, puisque ça a été confirmé par Kojima lui-même, le prénom de Snake est effectivement David. Il faut savoir que sa voix américaine est jouée par un doubleur qui est aussi un scénariste très connu d'Hollywood qui s'appelle David Hater. Il a fait notamment le scénario des X-Men 3,
X-Men, voilà.
L'adaptation aussi de Alan Moore de
Les
Watchmen.
Il était pressenti également pour scénariser l'adaptation de Metal Gear Solid qui était pressenti pour être réalisé par Paul Anderson.
Et il est dégoûté que ça se fasse pas.
Il est dégoûté que ça se fasse
pas.
Ah, mais en même temps, moi je suis pas dégoûtée que ce soit pas Paul Anderson qui réalise. Hein, voilà, on va pas rentrer dans le débat.
En tous les cas, le cinéma est aussi au cœur des préoccupations de Kojima. Non seulement parce que, comme tu l'as dit, il voit énormément de films le plus possible, et aussi parce qu'il aimerait bien que ça se fasse. Quoi.
Alors pour Julien. Pas spoiler, mais à la fois on en a déjà parlé sur Gameblog, donc bon. Et puis c'est toujours pareil, hein, y a toujours une anecdote à ce sujet. Kojima est présent dans Peace Walker, et assez rapidement dans le jeu d'ailleurs.
C'est Dieu, non, dans Peace Walker, c'est pas ça?
Une sorte de Dieu, ouais, mais ouais. Ça c'est un petit peu plus loin, tu l'apprends plus tard. On le trouve dans un camion, il est là, primp, et il y a Snake qui fait mais monsieur Kojima, mais vous êtes là et tout, machin, il fait oui. Bon, et derrière tu peux le mettre dans ta base, etc. On reviendra quand on fera, parce qu'on va vous faire une sorte de test.
Dans pas longtemps, là justement,
voilà,
on va en parler.
Ça, de Peace Walker, qui est vraiment un grand jeu, très honnêtement, bien meilleur, bien mieux maîtrisé qu'MGS4, très clairement.
Et bien mieux qu'OPS.
Sans comparaison possible. Et donc, tous les mecs que tu prends dans ta Mother Base, ils ont tous une petite phrase, histoire de créer un peu d'affect. Et donc Kojima, c'est « Mon corps est créé de 70% de cinéma, etc. Décide ce que tu veux faire du reste. » Voilà, il est imprégné du Cinoche.
Je sais ce que je fais du reste. Oh, pardon, on avait dit pas de graveleux. Oh, ça va.
Bon, alors, Metal Gear Solid Peace Walker, donc qui n'est pas Metal Gear 5, hein, c'est pas marqué dans le titre en tous les cas.
Ça l'a été à une époque.
Ça l'a été à une époque, et c'est, voilà, on le sait, c'est plus ou moins ça. Il a changé aussi, il y a un truc qui a changé très important dans Metal Gear Solid Peace Walker, qui est en fait le genre du jeu. Et donc depuis Metal Gear Solid le premier sur PlayStation, on parle de Tactical Espionage Action, et ce nouveau volet c'est Tactical Espionage Operations.
Exactement.
Est-ce que tu peux partir un petit peu de ça et nous expliquer vraiment pourquoi Peace Walker finalement est un épisode à part quelque part?
Bah déjà, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, il s'est appelé MGS5 à un moment, et ça a une vraie incidence. C'est-à-dire que c'est un épisode canonique. Même s'il n'en a pas de numéro, très honnêtement, si vous êtes fan de Metal Gear et que vous ne faites pas Peace Walker, vous allez passer à côté de tellement de choses, et finalement, en fait, du point déterminant de toute la saga. Puisque c'est là où on va apprendre. Je ne vais pas vous spoiler le scénario, bien évidemment. Ayez confiance.
On peut juste dire que ça se passe dans les années 70.
C'est, voilà, en 1974, au Costa Rica.
En fait, Big Boss est une femme.
Non.
Chronologiquement, c'est le troisième de la série après Snake Eater et Portable Ops, dont on ne parlera pas beaucoup parce qu'il était.
Parce qu'il n'était pas terrible.
Voilà. Donc, en fait, il intervient très tôt dans la série qui se prolonge jusque dans les années 2000.
Ah bah c'est surtout le moment en fait où finalement Big Boss a créé l'organisation Les Militaires Sans Frontières, qui vont donner naissance plus tard à Outer Heaven, qui vont donner plus tard naissance à Solid Snake, les projets Enfants Terribles, etc.
Les Enfants Terribles.
Les Enfants Terribles qu'on connaît dans Metal Gear Solid, le premier du nom sur PS1. Voilà, c'est ce moment-là, et c'est surtout la création du Metal Gear. C'est-à-dire que dans MGS3, il n'y a pas de Metal Gear, il y a le Shagohog, c'est pas un Metal Gear. Dans MGS Peace Walker, ils sont en train de créer les Metal Gear, ils vont créer les Metal Gear.
Ils ont l'idée.
Ils ont l'idée, et puis...
Expliquons brièvement ce que c'est que les Metal Gear, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas. Ce sont en gros des mechas qui sont capables de tirer des missiles nucléaires de n'importe où.
C'est ça.
Donc des menaces militaires particulièrement importantes. Mobile, évidemment, hein. L'armée fait partie des grands thèmes de la série, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés et sur lesquels on va revenir là.
Il faut rappeler que Metal Gear, le premier...
Julo s'est réveillé.
Julo s'est réveillé.
Mais non, mais j'essaie de parler depuis tout à l'heure, mais tu regardes jamais dans ma direction quand je lève la main.
Mais vas-y, touche-moi l'épaule.
D'accord, j'adore ça. Que le premier Metal Gear est sorti pendant la guerre froide. Et donc la menace nucléaire, tout ça, la menace nucléaire mobile, le fait de pouvoir balancer des missiles de n'importe où, etc.
Et puis au-delà de ça, dans la culture japonaise, c'est très ancré aussi.
Oui, il y a plein d'autres. Oui, et c'est sûr que la participation du Japon à la guerre de 39-45 et puis la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, c'est quelque chose qui a forcément
marqué
les esprits, et Kojima en particulier, et tout le cinéma d'après-guerre d'ailleurs en parle beaucoup. Godzilla est né de ça aussi, et Metal Gear est né de ça aussi.
Il y a beaucoup de références à Godzilla dans les Metal Gear, dans Metal Gear 2 par exemple. Mais c'est avant tout un jeu contre le côté militaire, c'est vraiment un jeu pour qui dénonce, et dans Peace Walker c'est évident, il y a vraiment des histoires, parce que c'est vraiment un jeu au niveau du scénario, c'est vraiment profond. Si on parle de MGS5, c'est vraiment pour ça, ça vous apprend énormément de choses sur la genèse de l'histoire, les machins, les personnages, l'évolution, mais même c'est vraiment super érudit, c'est le même délire que les autres, ça blablate pas mal, sauf que c'est mieux foutu parce qu'il y a plein de trucs que tu peux zapper, reprendre après dans des cassettes audio en fait, qui sont avec un Walkman et compagnie.
Mais alors structurellement ça se déroule comment par rapport au Metal Gear Solid traditionnel?
Ça n'a rien à voir.
Ouais. Pour le solo, je parle.
Ah, ça n'a rien à voir.
Mais justement, moi, j'ai une question. Excuse-moi de te couper.
Vas-y,
moi, qui ne suis pas un super expert de la saga, j'ai joué qu'au 1 que j'ai jamais terminé. Est-ce que c'est utile pour moi de vouloir tenter l'expérience de A à Z avec cette version PSP, ou est-ce que je vais absolument rien comprendre du tout?
Bah, franchement.
Ok, je me casse. Salut.
Non.
Salomé, t'es mal barré.
C'est comme une grande histoire. Si tu connais pas tout le contexte. Franchement, l'histoire reste intéressante, mais il y a tellement de choses à côté que tu vas passer à côté, parce que tu vas pas comprendre pourquoi ils disent ça.
Non, mais déjà, quand t'as joué à tous les épisodes, tu as du mal à comprendre ce qui se passe. Ouais. Et tu dis, attends, là, on parle de Solidus, on parle de Solid, de Liquid. Ah, mais attends, on est à Shadow Moses, mais qui sait ? Et donc, tu vois, si, déjà, quand tu suis toute l'histoire depuis le début, il y a vraiment des petites zones où il faut être vraiment calé. Donc là, tu peux tenter l'expérience parce que c'est un bon jeu d'infiltration.
Voilà. Elle a tout dit. C'est-à-dire que au niveau du gameplay, ça défonce. Alors après, bien évidemment, c'est sur PSP, on aurait rêvé tous qu'il y ait un deuxième stick analogique. Que bien évidemment, même s'il propose trois.
Est-ce que c'est un vrai problème finalement?
C'est un vrai problème.
Franchement, oui.
Honnêtement,
pendant la première demi-heure. Non,
c'est faux. J'ai joué 2 heures, Julien. Tu le sais.
Et t'as joué en quel mode? Parce que tu sais qu'il y a trois modes.
Alors, j'ai joué à un mode tout pourri. Et ensuite, tu m'as dit, il faut pas jouer à ce mode parce que ça, c'est le mode que pour les hardcore gamers japonais. Oui.
Donc du coup, ensuite... Monster Hunter.
Voilà, tout à fait, le mode Monster Hunter.
Bah t'es peut-être un japonais.
Mais en fait, c'est le même mode que Metal Gear Solid 3. Parce qu'en fait, tu choisis... C'est pas ça, l'histoire? En fait, tu choisis... Il y a
il y a un mode Monster Hunter, il y a un autre mode, je sais plus comment
ça s'appelle. Ouais, mais il y a un mode qui reprend celui de Metal Gear Solid 4 de Guns of the Patriot parce qu'il y a le gameplay qui est légèrement mais au niveau des touches, c'est légèrement différent dans Metal Gear Solid 4 et en fait, il y a un mode qui reprend si tu t'es habitué en fait sur PS3 à jouer d'une certaine manière, tu peux reprendre ce mode. Et moi j'avais repris ce mode pour Peace Walker et en fait j'arrivais pas du tout quoi à déplacer le personnage. Et le mode que tu m'as conseillé, qui est le mode avec
la caméra sur les boutons.
Voilà, voilà tout à fait. Voilà. Et ça c'est un peu difficile. Enfin,
c'est un peu difficile, mais si
tu rentres
dans les,
quoi.
Il faut, disons qu'il faut s'accrocher et il faut rentrer dans les menus et régler la vitesse sur la pression des touches.
Voilà, c'est-à-dire
que de base effectivement quand on appuie,
se
ça se déplace comme ça au niveau de la caméra. Pour ceux qui n'ont pas l'image, un peu brutalement. Et si tu règles un peu le truc, tu peux avoir quelque chose d'un peu plus souple. Et franchement, vraiment, de toute manière, le jeu est très dur. Et moi, c'est peut-être le bémol que je mettrais, c'est-à-dire qu'en solo, c'est vraiment un jeu qui est pensé multi, c'est vraiment un jeu qui est pensé un peu sur la base des Monster Hunter, du succès de Monster Hunter, donc, du carton de Monster Hunter sur PSP.
Coopératif, hein,
voilà. Ou en affrontement, hein. Mais effectivement essentiellement en coopératif. Et les boss, essentiellement les boss, c'est incroyable de difficulté et quelque part de frustration quand ils jouent tout seuls. Ils sont pensés pour être abordés de plusieurs côtés, faire des diversions, rentrer à l'intérieur pendant que toi tu machin. Et quand t'es tout seul, bah t'en chies.
Ouais, c'est ça, c'est pensé multi, quoi, tout simplement. Hein. Comme Monster Hunter va te faire des gros dinos tout seul, c'est pas possible. Il faut...
Mais tu peux y arriver.
Tu peux y arriver,
ouais,
mais tu passes des jours.
C'est difficile.
C'est toujours plus facile. Il t'incite en fait à jouer en multijoueur, quoi.
Bah, moi,
jouer en multi.
Mais moi, ce que je trouve génial dans le jeu, c'est alors sa structure qui n'a radicalement rien à voir avec tous les autres Metal Gear où il y a une histoire, on avance.
Non, il y a des chapitres.
Là,
surtout.
C'est vraiment découpé par chapitre. Ouais, mais là, c'est vraiment du micro-chapitre.
Ouais,
c'est
du micro-chapitre et tu peux même choisir celui auquel tu joues.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, ce jeu, c'est une boîte de Pandore. C'est dès que t'as fini un truc, il t'ouvre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'au début, tu commences, t'as l'histoire. Au début, ça ressemble à Metal Gear.
Ça reste linéaire quand même.
Alors attends, tu vas voir.
Ah.
Ça commence comme un Metal Gear. T'as beaucoup d'histoires, beaucoup de blabla, c'est lent, tu fais oh putain. Tu rentres dans l'histoire. Pac, d'entrée de jeu, au bout de 10 minutes, franchement pour les fans,
le
vous apprenez un truc.
Le méga scoop de la mort.
Tu te prends une baffe, on va pas le révéler, mais tu fais oh putain de merde, je veux y jouer.
Ouais, c'est dingue.
Oui, mais il faut être fan.
Ouais, il faut être fan. Sinon, effectivement, un trace,
il
comprendra pas.
Ouais.
Et puis là, bim, tu finis ça. Ça va ouvrir des missions auxquelles tu peux jouer qui sont en parallèle en fait avec l'histoire principale. Et puis bim, tu vas avoir la Mother Base où là tu vas commencer à recruter des soldats sur le champ de bataille avec le petit ballon là, que vous voyez les bâtons.
C'est
les ballons
ça, parce qu'il y a tout un aspect donc tactique et stratégique de gestion des ressources.
Exactement.
Et tout ça.
Bah, c'est hérité de l'un des épisodes qu'on aime le moins, le Portable Ops, hein, parce que le principe du jeu, c'était de récupérer une armée en capturant les soldats.
Sauf
en fait.
Que là, c'est bien foutu.
Sauf que là,
les capturais de manière pas classe. Hein,
ouais, ouais. Non. Là maintenant, c'est vraiment la classe.
Ah, maintenant, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal et surtout derrière, vraiment
tu les évacues en montgolfière un petit peu, c'est pas mal.
Avec un bel effet.
Oui, comme vous pouvez le voir effectivement sur les vidéos du jeu.
Exactement. Et puis surtout après t'as le côté RPG, c'est-à-dire que chacun ils ont des capacités spécifiques, tu les alloues à plusieurs styles de trucs, ils augmentent en puissance, etc. Bon.
Et donc après tu les emmènes en opération.
Alors attends, tu vas voir, c'est très compliqué. Non mais franchement c'est vraiment assez impressionnant. Et puis alors boum, tu reviens en mission. Puis là tu commences à te rendre compte qu'après les missions bah, t'as un peu plus de missions bonus. Puis boum, tu te rends compte que là tu peux plus avancer parce que vraiment les ennemis sont trop forts. Donc tu reviens dans ta Mother Base, tu commences à t'occuper de tes mecs. Puis boum, ça t'ouvre un truc. Ah bah maintenant je peux construire des robots parce que j'ai volé de l'intelligence artificielle sur les boss. Puis boum, ça trouve un autre. Ah tiens, je peux construire un Metal Gear. Putain, je peux construire mon Metal Gear. Et là tu fais oh merde, je suis en train de construire le Metal Gear des épisodes d'après.
Ouais.
Voilà. Et puis alors boum, ça ouvre un nouveau truc. Ah bah là je peux échanger mes soldats avec mes potes. Mais pendant les 4 premières heures, tu peux pas. Hein. Et puis boum, je peux prendre mes soldats et les envoyer sur des terrains de bataille ailleurs avec des tanks, des hélicoptères qui sont les hélicoptères et les tanks que j'ai récupérés dans le jeu. Et puis boum, ça n'arrête pas. Mais je te jure, les 10 premières heures, c'est constamment des trucs qui s'ouvrent. Et il te fait « Eh tiens, ça tu vois la nouvelle icône là ? Bah alors je t'explique, tu peux faire ça. Ah tiens, tu vois le nouveau truc ? Bah tu peux faire ça. » Ça n'arrête pas. Vraiment, pour moi, c'est l'épisode du gameplay. MGS4, ça a été l'épisode de la cinématique, l'histoire un peu longuette, un peu chiante, et le gameplay un peu derrière côté. Et là, ils se sont lâchés. C'est du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, et encore du jeu.
Mais très 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 tactique, où vraiment, tu peux plus jouer de manière individuelle. plus
moi
du
j'y
tout.
Arrive
oui mais parce que toi tu es très fort je
mais... j'en ai chié hein. Je vous jure vraiment il oui. y a des moments j'ai gueulé hein.
Surtout quand tu joues pas en multi, à mon avis tu peux pas développer plein de trucs et tu passes à côté d'une grosse partie du jeu qui est concentrée sur la coop.
Ah ouais, il faut... Non mais nous, moi j'attendais qu'une chose, c'est parce qu'effectivement on a eu la chance d'avoir la version française bien en avance. Sauf que on était les seuls, donc je pouvais pas jouer en multi. Et là maintenant, on peut jouer en multi et effectivement, ça revêt un autre sens, etc. Et c'est l'épisode du multi et franchement c'est la classe. Multi, attention, tout le monde à côté, hein, parce que c'est pas en wifi et compagnie.
Julo,
on sent aussi que c'est l'épisode où il a repris du plaisir à faire un peu des conneries dans le jeu. Et t'as plein de trucs super drôles en fait, des gadgets que tu peux utiliser et qui rendent les situations super drôles. Par exemple, tu peux déployer un faux soldat tout plat, tu sais, une espèce de PLV quoi. tu peux utiliser tous les gadgets pour faire des trucs à la con, etc. Et on sent vraiment qu'il s'est à nouveau vraiment amusé à créer des toutes petites possibilités de gameplay qui misent les unes à côté des autres, comme ça renforce encore plus l'expérience fun quoi. Voilà.
Parce que c'est vrai que Salomé, parce que c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je trouve qu'il y avait une vraie rupture entre le 3 où il y avait un milliard de petites missions un peu débiles, plein de clins d'œil, plein de trucs super drôles, et finalement dans le 4, mais je pense que Raon nous ramènera sur le sujet plus tard, ou alors lançons-le, mais dans le 4 c'était vraiment, ça avait pris un tournant beaucoup plus sombre, et t'avais l'impression que, mis à part un petit moment où il y a Screaming Mantis qui fait un petit peu un clin d'œil à MGS. Il a abandonné le côté humour et il a fait un épisode noir, un peu glauque. Et dans Peace Walker, ça revient justement à ce côté un peu fun, divertissement. Ouais. Et puis on a plein de second degré, c'est plein d'ironie, c'est plein d'humour et on retrouve un peu l'essence de Metal Gear.
Et c'est un peu binaire hein, parce que déjà entre le 2 et le 3, il y avait cette différence. Ouais,
oui.
Le 2, c'était aussi un épisode très cinématique. Mm. Le 3, un épisode très centré sur le gameplay, plus long, etc. Mm.
Mais pour moi, c'est une explication très simple. Hein. C'est le 2, c'est le premier épisode sur la PS2. Ouais. On découvre la technique, etc. Ouais. On en chie. Le 4, c'est le premier épisode sur la PS3. On en chie, on se fait bouffer par la technologie, etc. Ouais, ouais. On n'a plus le temps de se concentrer sur le gameplay. Mm. Et en plus, c'est l'épisode de toutes les réponses. Et en plus, c'est un épisode ultra attendu, stratégique pour la PS3, qu'ils soutiennent en exclusivité et tout, pression de malade mentaux. Même mental, je crois.
Et
d'ailleurs,
plusieurs.
Franchement, pour ceux qui ont le DVD Making of de GS4, c'est passionnant parce qu'on voit les affrontements au sein de l'équipe entre les responsables, les Mr. P locaux de Kojima Productions et les créatives machin Kojima. Et ils se prennent la tête, mais vraiment, ils sont là, genre, moi je veux rajouter des trucs, ça c'est Kojima. Et les autres qui disent, non, fais pas, mais genre, ils sont vénères et tout. Et les autres qui lui disent, si t'es comme ça, je vois pas ce que tu fais dans le milieu du jeu vidéo. Alors, non, mais vraiment, sauf que c'est à la japonaise, donc ils se vénèrent pas, mais les sous-titres sont super vénère, c'est comme si je te disais espèce d'enculé de ta mère, mais de manière très cool. Je te le dirais pas, bien sûr, mais non, mais c'est vraiment, c'est chaud quoi. On sent qu'il y a eu vraiment des moments de tension, et on le sait dans MGS2 qu'il y a eu des moments, des dilemmes, la mort de certains personnages, d'un personnage, d'une fille.
On peut le dire,
c'est un peu, maintenant c'est un peu révolu, etc. Donc spoiler, machin, attention
si vous n'avez pas
joué. Genre je sais pas combien d'années après le faire, fermez les oreilles pendant une minute, mais la sœur de Takon,
j'ai acheté une PS2.
Emma Emmerich, qui meurt dans les bras, etc., de Snake et de son frère, qui chiale, etc. Et on voit par exemple le sang sur elle, etc. Ça, Kojima vous voulait vraiment, et le reste de l'équipe voulait pas. Non, on peut pas le tuer, machin. Nanana. Ils ont tranché et ça a apparemment super clashé entre l'équipe et Kojima. Et tu le sens de toute manière. Plein de fois, il le dit. Hein. Il le dit souvent, c'est qualifié comme de l'ego. Il parle que de lui et machin. Mais il dit souvent, genre, c'est moi qui ai eu les idées, c'est moi qui machin.
Et il a la vision.
Mais voilà,
c'est pas faux.
C'est le mec qui chapeaute. Et je pense que derrière, moi, il me l'a redit. Hein. Il me l'a redit plein de fois. Je rêverais d'avoir des. Je trouve que. Alors. Anecdote. Il a vu.
Stop, anecdote.
Voilà, instant anecdote. Je lui ai posé la question parce qu'on parlait du film tout à l'heure. Je lui ai dit, ouais, il y a le film et tout, machin. Il m'a fait, ouais, je peux pas trop en parler. A priori, on va pas le faire, machin et tout. Et je lui ai dit, bon, il y a eu un court-métrage fait par des Italiens.
Fan film, là ?
Ouais, mais
c'est
MGS
horreur.
Philanthropie.
Oh mon Dieu.
Qui est pas horrible, moi, je trouve.
Oh, la catastrophe.
Non, je trouve ça un bel hommage. Les mecs, ils ont investi pendant des années leur truc, etc.
Lui, ils auraient pas dû.
Bah, lui, ça l'a fait chialer. Lui, il a surkiffé de voir que des mecs qu'il a jamais payé, que machin, etc., ont passé plus de 2 ans, 3 ans sur un projet avec leurs sous, leurs moyens, leur week-end, leur machin, et il les a rencontrés et il a surkiffé, il a envie de la revoir, etc. Enfin bon.
Ça vous dit pas, on fait un fan film
Bah tu, on pourrait, peut-être qu'il apprécie.
Moi je prends le rôle de Eva, comme ça on trouve un acteur qui ressemble à Snake.
On a besoin de Candy pour la réelle. Et Poufy pour le montage, et on a un Dream Team. Et je sais plus du tout ce que je voulais dire.
Anecdote.
Anecdote. Tu disais que ça l'avait fait chier à
C'était donc l'anecdote.
Il avait beaucoup aimé le film, le court-métrage.
Et
mais
du coup, il les avait rencontrés.
Non, mais je parlais d'un truc juste avant qui m'est fait arriver là. Je ne sais pas.
Bon,
si
bah
ça
écoute,
revient.
Si ça te revient, on refera un stop anecdote.
On va faire un jingle anecdote.
Voilà, en tous les cas, là, c'est un petit peu le bordel tout ça parce que finalement, on s'est éloigné de la série elle-même. On va faire un petit récap rapide de tous les épisodes qui nous intéressent dans l'ordre de leur chronologie pour l'histoire de Metal Gear. Donc on avait dit ça commence par Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui sera suivi par Metal Gear Portable Ops sur PSP, puis Peace Walker qui sort donc demain, et ensuite seulement intervient le tout premier Metal Gear sur MSX, et puis le premier Metal Gear sur MSX est suivi de Metal Gear 2 Solid Snake.
J'ai retrouvé un point info.
Puis intervient le premier Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot, et a priori donc le futur Rising qui sera le plus avancé chronologiquement,
mais qui fera pas partie de la saga.
Il sera pas
pour moi, alors honnêtement, pour l'instant officiellement on a peu d'infos.
Oui,
mais il s'appelle Metal Gear Solid Rising ou Metal Gear Rising?
Non, Metal Gear Solid Rising. Solid, mais pour moi c'est pas un tactical espionnage, ni operations ni action.
C'est un jeu d'action, hein.
C'est lightning bolt action pour moi. C'est un Zoé ou un jeu d'action avec les personnages de Metal Gear machin scénarisés et blablabla.
Alors, instant anecdote.
Oui,
deux.
Alors non, donc c'était juste
nous
pour
avons retrouvé
très rapidement
l'anecdote.
Grâce à Salomé, j'ai retrouvé le fil de mon histoire.
Merci.
Donc on disait que ça clashait au sein du développement, etc., et qu'il avait adoré le film et tout. Et donc ce qu'il me confiait, c'est qu'il me disait eh ben, j'aimerais bien qu'au sein de mon équipe, il y ait autant de gens passionnés, parce que j'ai l'impression parfois d'être le seul passionné par ma série.
Oh, quel gâchis! Ouh là là!
Ça calme quand même.
Tu sens que le mec.
Il est frustré de son équipe.
Il attend énormément, ouais. Je crois qu'il est. Mais bon, à la fois, c'est à la fois stimulant et à la fois.
Quand t'es à fond, t'as envie que les autres autour de toi soient
au taquet. Non, mais je pense qu'il est entouré quand même de gens qui sont au taquet.
Mais voilà,
il met la barre super haut, quoi.
Probablement des très bons techniciens. Tu vois, mais c'est pas péjoratif du tout, hein. Mais il adorerait, je pense vraiment, qu'il a pas transmis le flambeau jusqu'à présent, alors qu'il n'aura pas arrêté de dire que machin,
c'est
parce
vrai.
Qu'il s'en sent pas possible. Pour l'instant, à chaque fois qu'il l'a laissé pour MGS3, il est revenu, hein. Il l'avait laissé. Hein. Ouais. Il est revenu.
D'ailleurs,
parce que pour lui, c'est la catastrophe.
Avec Rising aussi, non?
Mais c'est parce que c'est pas un vrai MGS pour moi.
Non, mais Rising, moi je suis persuadé qu'à la fin, il va venir dessus. Non,
je pense pas. Il sera pas à l'E3 par exemple. Il laisse l'équipe. Là, c'est la première fois. Vraiment, c'est la première fois il le laisse.
Où il arrive à le faire.
Ouais. Parce que pour moi, son nouveau MGS, c'était Peace Walker. Il s'est donné à fond,
bah c'est
il l'a fait de A à Z.
C'est ce qu'ils ont dit, hein, de toute façon.
Puis le prochain, bon, bah, ce sera sur PS4, Xbox 8, machin.
C'est sûr, ça? Il n'y en aura
absolument pas sûr.
Alors peut-être le savez-vous.
Salomé, mais... tu as un scoop?
Oh non, je n'en ai pas. Mais, mais pourquoi Peace Walker? Parce que je suppose que des millions d'auditeurs se le demandent. Pourquoi Peace Walker? N'est-il pas, depuis le premier, n'est-il pas sorti sur une vraie console, entre guillemets, plutôt que sur une console portable qui, je dois le rappeler, admet de sérieux problèmes d'angle de caméra et des fois un champ de vision un petit peu frustrant et une maniabilité frustrante et une utilisation frustrante et tout ça frustrant pour un épisode sur lequel il s'est donné à fond. Alors pourquoi, Julien Chasse,
on rappelle que la première année de la sortie de la PSP, il y avait une interview où on parlait est-ce qu'on verra un jour parce qu'il y avait les Metal Gear Acid qui étaient des jeux de cartes et tout, et les gens disaient bon, bah c'est super, mais on aimerait bien un vrai Metal Gear. Ils disaient ouais, sur PSP jamais parce que c'est pas assez maniable. Bon, et donc il est revenu sur il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi,
Heroes,
tu sais
of
quoi,
Might and Magic sur...
je pensais exactement la même chose que toi il y a encore 3 mois. Je disais ça va être génial et tout, mais merde quoi, pourquoi
c'est
on l'a
parce
pas
que
sur
t'as
console
pas ma
HD
télé,
etc.
Ça.
Mais c'est parce qu'il l'a fait sur PSP qu'il y a tous ces ingrédients.
Et ben voilà, exactement. Ça veut dire que les mecs ils se sont lâchés, et tous les développeurs vraiment à qui j'ai parlé, les Français, les TP, les Lionel, fans de l'OM que je salue. ouais, vraiment, c'était vraiment génial, la super soirée avec Lionel et TP. Ils ont kiffé. Le développement il a duré un an plein.
Ce qui est jamais très long,
ah bah c'est qu'il y a rien. Pour la masse de données qu'il y a à l'intérieur, c'est hallucinant.
Quel était le temps de développement pour Metal Gear Solid 4?
4 ans.
D'accord.
Puis les coûts de développement, c'est pas les mêmes. Hein. Mmh. Eux, ils ont qu'une envie, c'est de recommencer, hein, d'en faire encore un autre et machin. Parce que eux, ils se sont éclatés. Eux, ils ont pu se lâcher la bride au niveau game design, idée. Quand ils ont une idée, même si elle est un peu au milieu du développement, bah, allez, bon, fais chier, mais on peut le rajouter. Alors que les autres, c'est l'angoisse, quoi. Tu comprends, ouais. Putain, il faut recoder des textures, il faut refaire tout le système, ça va faire crasher le code et machin. Je pense que ça lui a fait une bulle d'air incroyable qui ne sera que positive au prochain MGS, etc. Et que. Oui, c'est frustrant quand t'es vraiment super gamer, parce que oui, on n'a pas... Mais les valeurs de production, phrase chère à Raon, sur ma gauche,
oui.
Sont tellement élevées que franchement, vraiment... Enfin, moi, j'ai été happé. Je suis pas un joueur portable. Ma PSP, c'est ce que je rappelais dans un dernier podcast, quand j'ai mis l'UMD de Peace Walker...
tu savais plus comment faire.
C'est pour te donner l'idée, quoi. J'avais pas utilisé cette putain de PSP depuis le premier jeu où j'avais écrit une claque et puis depuis plus rien à foutre.
Moi c'était pas tapon je crois. Donc,
ouais,
tu vois,
mais non, mais j'y ai joué, mais sur d'autres consoles et tout. Mais j'ai très peu joué à la PSP, la DS j'aime bien, mais j'y joue de manière très morcelée. Et là, j'ai passé, là je suis à être à 30 heures de jeu.
Et de toute façon, historiquement, les Metal Gear sont des titres qui sont techniquement très avancés. On se souviendra tous de celui qui est. Il faut qu'on y revienne maintenant parce que c'est quand même le premier épisode sur PS1 Metal Gear Solid 1. Voilà la claque.
Bombe.
C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je m'en souviens très bien, quand on a vu les premières images.
Ben, voilà, c'est ça. Rappelez-vous la vidéo qu'on a reçue avec le ninja.
On était persuadé que c'était une cinématique. Konami nous assurait que c'était pas vrai, que c'était du in-game, etc. Et on ne les a pas cru jusqu'au moment où on a vu le jeu en vrai. Et on a vraiment halluciné.
Ah ouais. La musique, tout.
Voilà. Et donc ce premier Metal Gear Solid, c'est évidemment celui qui a vraiment mis le feu aux poudres, hein, puisque les deux premiers qui sont sortis sur plein de plateformes, hein, MSX, NES, Commodore 64, etc., sont quand même vieux. C'est des jeux en 2D. La plupart des gamers d'aujourd'hui ne les ont pas connus.
Et tant mieux pour eux, parce qu'en fait,
c'est vrai que c'est difficile
d'y
revenir.
Et quel temps gagné.
Mais non, mais il y a tellement d'éléments de gameplay qu'on retrouve dans MGS 1 et MGS 2 qui étaient déjà dans MG1 et MG2.
Oui.
Et finalement, quand tu les as pas fait, tu te rends pas compte, tu fais c'est génial.
Mais en fait, c'était toujours le même jeu. Voilà.
Bah, c'est ça.
C'est ça que tu voulais dire et c'est un truc que tu reproches à la saga, toi, ou finalement, non, c'est plutôt. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de scènes similaires, des éléments de gameplay qui sont repris.
On peut en citer en vrac quelques-unes. Dans MGS 1, on découvre le lance-missile qu'on guide comme ça.
Ouais.
À l'époque, on disait putain, ça te défonce, on se met en vue subjective du missile, machin, etc. C'est une scène stricto sensu qu'on retrouve dans Metal Gear.
Sauf que c'était pas en vue subjective.
C'était pas en vue subjective. Le Grey Fox qui arrive à la fin, le gentil qui s'avère être le méchant
dans l'épisode d'après,
machin. Mmh. Bah c'était dans Metal Gear, c'était pareil, Big Boss qui était le gentil, qui était ton capitaine quoi, et qui finalement est le méchant que tu vas tuer, mais qui en fait est pas mort et qui va revenir. Grey Fox qui était ton pote,
c'est un
dans
peu ça Metal
d'après,
Gear aussi, hein,
et qui en fait va devenir ton ennemi, que tu vas retrouver dans MGS sur PS1, et qui là va finalement être ton pote et va t'aider, que tu vas tuer Liquid que tu vas retrouver dans MGS 2, qui en fait n'est pas Liquid mais Revolver Ocelot qui a coupé son bras et qui la met dans
qui était méchant, mais en fait non, il est pas méchant.
Le ninja qu'on retrouve dans le 2 qui est ah, putain, est-ce que c'est celui du 1, mais non, mais c'est un des références au 1 et puis Raiden qui finalement est le qui refait exactement le même jeu que MGS 1, et que c'est toujours le même jeu. C'est toujours pareil, mais à la fois c'est bien amené, c'est bien enrobé, et depuis le 3 il passe un peu à autre chose, mais dans le 4 on retrouve des personnages du 2, du 1, etc.
Il y a beaucoup de gens qui ont reproché d'ailleurs au 4 qu'il était trop fan service.
Ah, il l'est quand même, raisonnablement beaucoup. Hein.
Voilà, donc.
Raisonnablement beaucoup.
Raisonnablement beaucoup, oui. C'est un nouveau concept, effectivement. Mais c'est aussi ça, Metal Gear. Enfin, moi, je ne suis pas un acharné de la série comme vous pouvez l'être, mais on a l'impression qu'en fait, Kojima, il a, sur le 4, en tous les cas, il a un peu perdu le contrôle de ce qu'il faisait, sous couvert de satisfaire absolument la communauté des fans et d'en faire donc un jeu qui leur donne tout ce qu'ils attendaient.
Moi j'ai l'impression, excuse-moi, tu voulais parler. Moi, j'ai l'impression également que sur Metal Gear Solid 4, il y a un vrai, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, mais il y a un vrai problème qui est que peut-être que à ce moment-là de sa vie, Kojima n'a pas assumé ses ambitions de réal et qu'il aurait dû peut-être céder à sa pulsion d'en faire un film, parce que clairement avoir un jeu avec 12 heures de cinématique, tu te dis bah ouais, où est la différence finalement vu le peu de temps que je passe avec la manette en main, autant en faire un long.
À partir du chapitre 3. Parce que les deux premiers chapitres, ça va encore.
Oui,
mais après,
oui,
ça,
les deux premiers chapitres, ils nous arnaquent, oui. Et ensuite, oui. Mais voilà pourquoi Kojima n'a pas assumé de vouloir faire, un film de Metal Gear Solid pour clore la série en beauté.
Je lui ai posé la question.
Que t'a-t-il répondu ?
Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, on a parlé un moment un peu de est-ce qu'il jouait aux jeux occidentaux, etc. Et je lui ai forcément dit, vous êtes passionné de cinéma, blablabla, vous avez vu, au Japon ça a pas trop mal marché en plus. Il y a Heavy Rain qui est sorti, c'est un jeu, un film interactif, mm-hmm. est-ce que c'est une voix qui vous intéresse, pas du tout, machin et tout. Il a dit, ouais, ça m'intéresse pas mal, etc. Bon, très bien. Et derrière, donc ça c'est ce que vous avez pu voir dans l'interview qu'on... Ah bah non, vous l'avez pas vu encore, c'est vendredi. Ah bah non, c'était vendredi dernier. Bon, je ne sais plus. Néanmoins, après, on en a reparlé un petit peu. Et lui, il a été catégorique. Il a dit, je ne veux pas faire de cinéma. J'adore le cinéma.
Cage aussi,
mais je fais du jeu vidéo. Et je veux le côté interactif.
Oui, mais les scènes de cinématiques, c'est quand même lui qui les a drivées.
Oui, mais dans Peace Walker, par exemple, les cinématiques commencent à devenir vraiment interactives à plein de moments.
Oui, bah en effet.
Et,
oui.
et il a effectivement, cher Raon, une certaine dichotomie entre, entre son envie effectivement, de raconter des histoires, porter le propos et à la fin, à la fois faire jouer parce que ça reste du jeu vidéo. Et pour moi, c'est le problème de Kojima, de toute manière. C'est que ses jeux sont complètement boursouflés, qu'il n'arrive pas à les maîtriser, qu'il a plein d'idées,
plein de bonnes idées
et plein de mauvaises idées, et que tout ça, c'est dans un shaker, et que c'est pour ça que je ne cesse de le répéter, et que je le répète les yeux dans les yeux, à tous ceux qui me traitent de, je sais pas, méga fan aveugle des Metal Gear, non. J'adore tout l'univers, l'homme Kojima, ce qu'il veut faire, ce qu'il essaye de faire, ce qu'il apporte aux jeux vidéo. Mais les jeux en eux-mêmes, ils sont pas tous bons. Et
il y a presque la même relation avec Kojima que celle que je peux avoir avec Molineux, par exemple. Ouais. Effectivement, j'adore le personnage, j'adore les à côté, j'adore la vision qu'il y a derrière et les envies, mais c'est pas, ça se concrétise pas toujours d'une manière fantastique, c'est vrai. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a énormément de thèmes particuliers. Il y a au moins un truc qu'on peut pas reprocher à Metal Gear Solid 4, a priori, c'est le sérieux. Donc toi, tu l'évoquais, Salomé, tout à l'heure, l'aspect un peu mature des thèmes qui sont abordés, et notamment un thème qui est finalement d'actualité, peut-être beaucoup plus que d'autres dans la série, la privatisation des armées. Et les conséquences que peuvent avoir sur les États et les nations, le fait que les conflits militaires sont gérés par des entreprises privées qui ont des intérêts financiers, etc., etc. Donc il y a quand même
PMC.
Voilà, des thèmes matures par-dessus. C'est pas le seul thème qui est abordé par la série. Il y en a beaucoup d'autres.
C'est surtout abordé dans MGS4.
Juno. Oui, bah ça c'est effectivement.
Il y a les prémices dans MGS3 déjà.
Il y en a beaucoup d'autres. Donc on parlait de l'opposition de la guerre aussi. Il y a les femmes aussi qui reviennent beaucoup dans la série. Et tu me regardes effectivement à juste titre.
Et je te regarde.
Alors outre le fait que dans Metal Gear 4 la plupart des boss sont donc des femmes.
Tous.
Sauf le boss.
Oui.
Final.
C'est vrai.
Il y a dans partout dans la série des femmes, dont certaines qui ont des rôles absolument clés.
Bah, clés, ouais.
Voilà.
Eva. Eva notamment.
Oui, Eva notamment. On va peut-être pas, je sais pas. Ah bon.
Julien. Non, mais pour moi, les femmes dans les Metal Gear, c'est la représentation de ce que s'en fait Kojima, c'est-à-dire des femmes généralement fortes, sexy, intelligentes.
Vulnérables aussi.
Fondamentalement intelligentes. Mais effectivement, il y a Eva dans MGS3, il y a Meryl qui
dans
je trouve est plus intéressante dans MGS1 finalement que dans MGS4. Bon, parce que surtout à cause de la fin.
Naomi Hunter aussi, non ?
Naomi Hunter est vraiment intéressante.
Un gros personnage.
La femme a toujours un côté important, et moi je suis intimement persuadé que de toute manière, Kojima a un problème, mais problème pas dans le sens négatif du terme.
Tu veux dire freudien, c'est ça ?
Ben, peut-être avec les femmes. Ça veut dire que moi je me rappelle la première fois où on s'était vu. C'était à l'occasion du premier trailer de MGS2, qui, rappelle-toi, on avait été invité chez Universal Studio,
ouais.
Pour voir en avant-première, genre 24 heures avant le 3, etc. Et tout, et on savait pas. Bon, on savait qu'MGS1 c'était super, que là ça va être la PS2, donc ça allait être plus beau et tout. Bon, on s'attendait à quoi, un trailer de 2 minutes, puis c'est très bien.
On a eu la chair de poule pendant une heure et demie.
Mais laisse tomber, c'était n'importe quoi. Et donc je l'ai rencontré là, et on avait un peu papoté. Et puis je l'avais vu l'année d'après. Et donc forcément, c'est quand même, ça a été pour moi, je sais pas, enfin de tous ceux qui ont fait le 3 ici, la seule et unique fois de ma vie où j'ai vu le salon s'arrêter toutes les heures et converger devant un écran toutes les heures, pas les deux premières fois, toutes les heures, pendant 3 jours, le salon s'arrêtait, ils en ont même fait un DVD.
Parce que chaque heure, il passait ce fameux trailer.
Et tout le monde regardait la mâchoire décrochée. Moi, j'en avais des frissons à chaque fois, enfin bon. Et donc la fois d'après où je le vois, je lui fais, putain, quand vous êtes rentré... En plus, Kojima flippait grave. Lui, il savait pas si ça allait plaire ou pas. Il a bien compris que ça avait cartonné. Il est rentré chez lui, et c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, votre femme, elle a dû être comme une ouf, genre fière de vous et tout. Il m'a dit, mais vraiment avec un regard un peu triste. Non.
En vrai, réalité.
Ça m'a calmé tout de suite. Elle s'en fout et elle m'a tout de suite remis à mes tâches un peu de.
Idéo,
de
si
père
tu m'écoutes. Idéo, si tu m'écoutes. Si tu as, si tu recherches une femme blonde à forte poitrine qui saurait reconnaître.
Oh, permettre. Arrête de zoomer, Koufi. Arrête.
Qui considère ton travail avec avec la plus grande estime et qui serait prête à tout.
T'as le numéro de Poulpe? Parce que là, je crois que c'est le moment d'appeler là.
Mais attends, je lui envoie un SMS.
On appelle à un ami, là, vite. Mais
non, mais c'est vraiment alors, dommage. C'est vraiment dommage d'avoir cette frustration. Enfin, tu vois, de faire ça et quand tu rentres, d'avoir quelqu'un qui dit oh, c'est pas terrible ce que t'as fait.
Ouais, mais
tu
peut-être que ça remettrait un petit peu sur terre. Mais, des, mais le d'un pire. Côté, du coup, c'est qu'il
non,
est
mais
deux,
ce qu'il
il
pourrait
met
créer,
dans ses jeux. Mais du coup, il les écrit, les rôles de femmes qui rêvent.
Les fantasmes.
Ou alors, il les prend dans les attachés de presse françaises.
Françaises et japonaises. Je te jure, il est escorté par. Je sais pas, 4, 5, 6 femmes très belles, japonaises, etc., qui sont des RP, du marketing, du machin, etc. Mais vraiment, il a une petite cour.
Si, ça, me rappelle, ça me rappelle quel dictateur ? Kadhafi. Il est escorté par des femmes militaires.
Bah écoute, le jour où Kojima plantera sa tente à côté de celle de.
Oui, c'est ça. À l'Elysée, on en reparlera. Mais, et puis, dans les jeux même, c'est très sexué, les Metal Gear.
Mais très, ouais. Très.
Il y a
très,
énormément
très, très.
De. Il y a Meryl avec
les
sa petite culotte. Ça
puis
parle
les
de.
Les fameuses revues érotiques.
Les revues érotiques que tu poses par terre pour distraire les soldats.
Je ne sais pas si je devrais dire ça devant toi, Salomé. Mais je pense que tu l'as vu, mais dans MGS2, quand même, Snake se branle.
Pardon.
Dans le tanker. Tu l'as pas fait, ça? Avec,
dans le casier.
Avec Otakon.
Julo.
En fait, il suffit de rentrer dans le casier. À l'intérieur des casiers, tu vois qu'il y a des posters de femmes nues, enfin de femmes légèrement vêtues.
Ouais.
Et ce que tu peux faire, c'est te mettre en fait contre.
À genoux.
À genoux, voilà, c'est ça, et te relever.
Non, et appuyer sur la vue qui,
voilà,
coup,
qui va zoomer.
Dessus,
ça
fait des bisous.
Ça fait des bisous. T'entends Snake qui fait des bisous.
Ouais,
et puis,
ça
si
j'ai
tu
fait.
Continues à le faire encore un petit peu.
Vingtaine, trentaine, cinquantaine de fois.
Tu l'entends un peu avoir le souffle qui.
Ah,
s'accélère.
Ça.
Attends, c'est pas fini.
Et Otakon qui finit par appeler et lui demander ce qu'il est en train de foutre dans ce casier face à ce poster.
Et tu
es en train de foutre, n'est-ce
pas? Et tu vois la petite tête.
Moi, c'est
dans le truc, il est comme ça.
J'ai entendu derrière sa caméra.
Machin, il fait tu devrais peut-être pas faire ça pendant la mission, machin.
Ouais, c'est vrai. Peut-être que t'as mieux à faire.
Ah, alors je tiens à préciser que j'avais fait ça, mais que, étant née relativement récemment,
tu croyais qu'il mangeait un Kinder.
Je ne comprenais pas.
Très bien.
Donc maintenant que je comprends.
Ça éclaire la saga d'un nouveau
ça
jour.
Éclaire, voilà, ça donne une nouvelle optique, une nouvelle dimension au jeu.
Mais il y en a plein, hein, le Love Pack dans Peace Walker. Ouais. Bon, ça, c'est des allusions gentilles, mais il y en a plein. Il y a quand même des personnages homosexuels aussi dans le jeu.
Oui.
Qui
et, ah, bah, dans MGS2. Rappelle-toi de
le
quelle manière est... le.
Le mec.
Voilà. dans MGS3, ouais, c'est le colonel Volgin.
Ouais.
Avec le mec qui ressemble à Raiden. Bah, ils sont quand même ensemble, c'est dit clairement dans un des trucs de codec.
Ah,
et ouais, il se le tape, Raiden. Il lui a le foudre au cul.
Mais non, mais Raiden, ensuite, il a une femme, il y a une femme et un gosse.
C'est pas Raiden, c'est le colonel Volgin.
Ah, pardon.
Et je sais pas quoi. Et dans MGS 2, la manière aussi, Raiden, c'est, on joue sur l'ambiguïté.
C'est un personnage très androgyne, effectivement.
Et le Ames, le mec qui est avec le président, etc., bah, pour être sûr, il touche les couilles quand même. Direct, bim, comme ça.
Bah, dans MGS4,
mais non, mais c'est que.
Dans MGS4,
que c'est cru,
mais c'est, non,
que
mais c'est
vous
cru,
êtes cru.
Mais parce que ça l'est dans le jeu. Et je trouve aussi que c'est l'une des forces de jeu. Et mine de rien, vous m'en citez des jeux qui tombent pas dans le graveleux, parce que ça n'a rien de graveleux, mais qui ont plein de petites anecdotes comme ça, plein de petits gimmicks et tout, qui sont quand même ouvertement sexuels, et pour lesquels ça passe. Et plutôt bien.
C'est quand même effectivement assez rare, surtout sur des séries de cette ampleur. Parce qu'en fait, en général, ce genre de choses, tu les oses sur des trucs qui sont pas très connus ou qui vont pas être.
Ou dans des GTA et tout.
Non, mais justement, c'est parce que comme c'est des thèmes un petit peu sérieux, entre guillemets, il veut peut-être dédramatiser un peu.
Ah
en
bah,
disant, voilà, c'est un jeu vidéo, quoi.
Dans MGS.
Enfin, je pense, hein, j'en sais rien, j'ai jamais psychanalysé encore.
Autre anecdote.
Pas encore.
Autre anecdote, quand même. Me faire taper sur les doigts. L'ancien traducteur de Hideo Kojima, Scott Dolph.
Scott Dolph, ouais.
À sa sexualité. Non mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Parce que
c'est parce que il est dans MGS 2 et c'est le colonel Scott Dolph. Et pareil, quand tu vas dans le codec, etc., à un moment précis et tout, il te parle et en fait Scott Dolph, donc le colonel, et donc
son collaborateur,
collaborateur de Kojima de l'époque, qu'il a viré depuis, était quand même en relation avec Vamp. Ah, et là, grand blanc. Ouais. Vamp, donc, est l'un des personnages de MGS 2 et MGS 3. Donc, en gros, l'homosexualité.
Vamp
quand même...
est homosexuel.
Eh bien, bien sûr. Ou au moins bisexuel. puisqu'il s'est tapé
c'est pour ça qu'il
un
n'arrête
podcast
pas...
avec des révélations
mais voilà.
du sexe
mais oui.
du sang
non mais voilà et moi je trouve
c'est
que
pour ça qu'il lèche il lèche tout le temps non mais arrêtez c'est pour ça qu'il lèche le sang non mais vraiment
parce que aussi c'est un vampire
des hommes
oui quand même mais il a beaucoup oui il a beaucoup de gestes très très sexuels
alors et puis quand il danse un petit peu ça fait un petit peu déjà enfin
alors justement on parlait de ces personnages il y a eu énormément de choses presque farfelu hein, dans les personnages c'est toute une galerie de personnages en plus des snakes donc il y a les snakes eux-mêmes qui sont des clones les uns des autres on va pas rentrer non plus trop dans les détails mais donc
bah, c'est très simple hein, tu pourrais t'y attarder enfin
non
oh, franchement c'est pas très dur en fait
c'est pas très dur
oui oui non mais quoi qu'il arrive ce sont donc les personnages qu'on incarne à l'exception donc de Raiden dans Metal Gear 2 qui a été quand même aussi un des grands moments de la série qui a été très controversé certes mais
qui
au moins voilà a eu le mérite de vraiment surprendre particulièrement les joueurs à l'époque.
Mais t'imagines sur un jeu aussi attendu?
Bien sûr, j'imagine.
Il a fait
on l'a vécu.
Toute la com sur. Mmh.
Sur juste
pas
le passage.
Le premier,
sur une
le premier environnement.
C'est génial. C'est génial. Moi, je trouve ça brillant. Après, on n'aime pas, mais c'est brillant.
C'est pas la seule grande idée de Monsieur Kojima dans la série. On y reviendra tout à l'heure. Mais parmi tous ces personnages un petit peu fantastiques, alors il y en a certains qui prêtent un peu à rire, peut-être. Mais
Fatman,
par exemple.
Tuez-le, s'il vous plaît.
Fatman, c'était le plus terrible d'entre tous.
Oh, putain, merde.
Il y a beaucoup de personnages. À tendance fantastique et des boss qui ont fait aussi la réputation
mythique.
De cette série des boss mythiques alors effectivement un petit tour de table rapide pour savoir quel est votre boss préféré tu veux commencer Julo
alors je dirais mon boss préféré c'est pas très original mais c'est certainement Psycho Mantis parce qu'il m'a déjà il avait
donc Metal Gear Solid 1
il avait une allure pas possible il faisait flipper il était
avec son masque à gaz
avec
comme
son
ça,
masque à gaz
ses pouvoirs
psychiques et tout et surtout pour le gameplay parce que effectivement il interrogeait ta memory card il arrivait à te surprendre tu devais pour essayer de le contrer tu devais changer ta manette
de port manette
etc enfin au niveau boss pur et dur c'est mon préféré par contre mon personnage mon vilain préféré c'est très clairement Revolver Ocelot qui s'est dévoilé au fil des épisodes de manière de plus en plus profonde et classe quoi
et c'est des rares boss finalement qui est récurrent en plus parce que la plupart des autres ils font un épisode et puis ils disparaissent
et puis il fait complètement partie de la mythologie parce que tu sais il s'est fait donc trancher la main dans Metal Gear Solid 1 on lui a greffé la main de Liquid Snake
a pris contrôle
de lui tu vois il avait un peu ses deux personnalités etc quand tu joues à Metal Gear Solid 3 et que tu le rencontres alors qu'il est jeune et
le c'est fils de Z-Boss qui est le mentor du futur Big Boss
et pour moi c'est un peu le personnage central je le retiens même plus que Snake en fait sur toute la toile d'araignée de cette histoire comme ça il est en plein milieu et il a toujours un coup d'avance tu te rappelles du coup de fil à la fin d'MGS2 quand il téléphone au président
yes Mr. President
à la fin d'MGS1 pardon là tu comprends qu'il y a un truc avec lui tu te dis mais
qu'il se passe
il est double triple quintuple agent
c'est génial mais c'est je pense même un de mes vilains préférés dans le jeu vidéo quoi d'une manière générale
juste une toute petite digression c'est pour dire que justement à l'image de Revolver Ocelot qui donc a fait toute la série etc tout n'est pas maîtrisé dans MGS4 etc qui est l'épisode où il doit tout faire mais contrairement à un certain Star Wars où ils ont fait les préquels il fallait qu'ils retombent sur leurs pattes et ils ont fait de la merde là il fait parfois un peu de la merde mais pas toujours et il y a certains quand même personnages où il arrive vraiment d'épisode en épisode qu'il s'agisse de préquel ou de
à s'en sortir correctement
à s'en sortir et même à vraiment donner vie et corps à des personnages qui restent mortels
alors justement Julien tu vas garder le micro tu vas nous dire un petit peu quel est toi ton personnage ou enfin ton boss préféré et tu n'as le droit qu'à deux du coup hein, puisque Julo il en a fait deux donc
alors comme je connais celui de Salomé je vais lui laisser et
merci.
Donc je vais parler de The Sorrow
okay.
qui est dans MGS3 et qui est donc ce personnage qui finalement est le père de Revolver Ocelot puisque c'est l'amant de Z-Boss et qui donc qu'on retrouve qui est mort et qu'on retrouve en fait sur le Styx lorsque Snake mais qui n'est pas Solid Snake oh, putain c'est compliqué
le Snake
de MGS3
la rivière des morts hein,
la rivière des morts etc qui donc est tombé d'une falaise machin on croit qu'il est mort et tout et il navigue là-dedans c'est brumeux c'est en noir et blanc machin il avance et cette traversée sur le stick alors que des trucs volent dans tous les sens en fait on est bloqué et agressé par des soldats, des dizaines de soldats,
des revenants.
Et puis
se lève de l'eau.
Et c'est compliqué. Et puis par tous les boss qu'on a tués, etc. Et puis après on arrive en face de lui et puis on sait pas comment le battre. On lui tire dessus, il se passe rien, c'est un fantôme, il esquive. Enfin bon voilà. Et en fait pour s'en sortir, il faut prendre une pilule qui te réanime, machin, etc., que t'as dans ton inventaire, ah, que t'avais filé à un moment, ouais, machin. Et surtout, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où c'est génial, c'est quand moi j'ai refait le jeu.
Oui, alors c'est ça le vrai truc. C'est qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté de
bah,
ça.
Coco Tranquilizer, parce que c'est l'une des possibilités dans tous les Metal Gear, c'est de tuer personne, boss compris.
Mais c'est d'ailleurs le meilleur mode de jeu.
Ah, c'est plus kiffant et tout, on a plus de trucs. Enfin, c'est vachement galère.
C'est difficile.
Hein.
C'est
sur
difficile.
The End dans MGS3, je peux te dire, j'en ai chié.
Hein,
qui est
oh
un
non,
vieux sniper
technique...
qui dure 4 heures.
Il y a une technique très simple.
Ah bah putain. Tu la donneras tout à l'heure.
Je vous la donnerai en off.
Voilà.
Il faut débrancher la manette.
Mais donc, et ben là, moi, donc, j'avais tué personne, boss compris. Et donc, je suis arrivé dans cette séquence-là. Et je suis arrivé face à lui direct. Alors que la première partie. Mais il m'avait fallu mais une demi-heure avant d'arriver devant lui, quoi. Et puis, emmerdé par tous les mecs, etc. C'est qu'en fait, toutes les personnes que vous avez tuées sont là. C'est vos cauchemars. Et vous en avez tué 10, il y en a 10. Vous en avez tué 1000, il y en a 1000. Vous en avez tué 0, il y en a 0.
En fait, le fluff, c'est ta conscience.
Exactement. Et putain, c'est là où je trouve. Et puis, il y a des bruits, des phrases qui partent, machin, comme ça. Ils te rappellent des trucs.
Ça joue beaucoup avec la mise en abîme du joueur, hein,
ouais, ouais,
chez Kojima.
C'est comme dans MGS2, avec le codec qui part en vrille, les trucs. Enfin,
voilà.
Moi, c'est
et
là
puis
où
même
je trouve qu'il est plus fort.
Le boss dont parlait Julo à l'instant, Psycho Mantis, c'est pareil. Ça joue beaucoup aussi avec la memory card, etc. À vraiment incorporer. C'est ça aussi qui fait le génie de cette série, à incorporer le joueur dans le jeu. En cassant le fameux.
Ça a été vraiment grandiose à partir du 2 quand même à ce niveau-là. Parce que
ah non,
c'est
le premier aussi.
Non, dans MGS1, il casse le quatrième mur.
Oui.
Mais il le fait avec des trucs un peu. Mais pour l'époque, ça a été révolutionnaire.
Mais
bien sûr, on est d'accord. Hein.
Moi, je suis toujours
mais
à la recherche
2...
du coup de la memory card et des vibrations.
Mais dans le 2, le joueur est inscrit directement dans le scénario et l'histoire. Et ça, c'était surbalèze. Et quand tu découvres toute la fin de MGS2. T'es juste sur le cul, quoi.
Ça, je suis d'accord. Mais voilà. Ça, c'est vraiment au niveau du scénario. Moi, je trouve que, par exemple, un truc tout bête, hein, mais quand dans le jeu, dans MGS1, on te dit va trouver. Putain, pour le code et tout, c'est le code qui est marqué sur le dos de la boîte du CD.
C'est génial.
Oui,
c'est génial.
Tu retournes le jeu et t'es là. Putain, mais je le trouve pas, ce bordel de truc, etc. Et puis finalement, à un moment, une lumière. En plus, à l'époque, Internet n'existait pas.
Oui, il faut le savoir, effectivement.
C'était au début. Ouais.
Ce qui est quand même très cool parce que ça bloque les joueurs. Si tu ne peux pas continuer, si tu n'as
pas
cette.
C'est anti-piratage. Je trouve ça très bien.
Oui, mais je veux dire par rapport aux joueurs. Si tu ne trouves pas, tu ne peux pas continuer le jeu.
Parce qu'en fait, le dos du CD, c'est votre boîte de jeu où, effectivement, quand vous la tournez, l'une des photos. C'est le
la
numéro
fréquence,
de codec
c'est la fréquence.
De Meryl que vous devez joindre.
C'est
et tout.
Génial.
C'est, génial. Putain,
c'est
génial.
Extraordinaire.
Et donc,
superbe.
Pour finir sur ta question, donc il y a lui, The Sorrow, et comme Salomé, The Boss.
Ok. Alors, Salomé.
Et Psycho Mantis comme Julo.
Ouais.
Alors, après, un passage de flambeau aussi flamboyant. moi, mon boss préféré, en fait, reste The Boss. Tout simplement parce que Metal Gear Solid 3. Reste mon épisode préféré de la saga. Alors, parce que tu campes, tout ça. Enfin, moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais The Boss, vraiment, le combat final contre The Boss dans ce champ, avec cette espèce de poésie, avec une musique qui t'enivre.
C'est
avec...
la femme que tu aimes, que tu vas tuer.
Non, moi j'aime Snake.
Oui.
Ah oui,
mais
okay.
Snake n'est pas cette femme en fait.
Mais Snake aime cette femme
mais
et
oui.
Il va devoir la tuer.
En plus, il l'aime, il va devoir la tuer et c'est son mentor. Et tu sais que c'est une histoire de succession et que c'est terrible. Et que vous courez après dans un champ de fleurs, il y a les pétales qui volent, qui tourbillonnent et qui t'entraînent. Et t'es
c'est
là
vrai
et
que techniquement
tu
ça tuait aussi à l'époque. Hein,
et c'est génial
ça.
Quoi. Et c'est génial. Et tu la cherches au début et t'as pas. Et c'est ça qui est terrible, c'est que t'as pas envie de la tuer quoi. Ouais. T'as envie de te faire tuer.
Elle t'a sauvé juste avant.
Elle vient de te sauver et toi tu dois la buter quoi. Moi vraiment je suis morte deux fois en me disant non je suis désolée je peux pas te tuer The Boss pardonne-moi mais je veux te laisser vivre et bon game over oblige mais bon et c'est tellement beau et ensuite ça enchaîne en plus voilà sur un dialogue entre les deux personnages qui est superbe avec oui tu as bien fait de me tuer et ça enchaîne surtout sur la musique chouchou de ma vie qui est la musique du générique de MGS3 qui est splendide. Et en fait, tout ça, c'est presque mieux que la fin de MGS4 où moi, j'ai chialé pendant 10 ans quand, je ne spoilerai pas, mais quand un personnage très important meurt. Mais voilà, la fin de MGS3 avec The Boss, c'est trop poétique, t'as pas envie de la tuer. Techniquement, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal.
Et la fin, quand il est devant la tombe, etc., elle est humiliée, hein. Ça veut dire qu'elle est traitée de traître alors qu'elle a sauvé sa patrie, les États-Unis.
C'est ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Il y a tout dans cette scène parce qu'effectivement, l'un des thèmes principaux de Metal Gear aussi, c'est le soldat, c'est-à-dire la façon dont il est utilisé par les gouvernements, sont comment dire les traîtres sont ceux qui donnent les ordres aux soldats, tu vois, et les soldats c'est toujours les gens droits dans Metal Gear, et elle sauve la face, elle sauve les sa États-Unis. Patrie voilà,
mais elle est pas reconnue,
elle sauve sa nation, voilà, mais elle a sans sa mort il y a un vrai conflit
et elle le sait,
en perspective
qu'elle va être
elle
traitée
se sacrifie.
De traître
voilà, et elle sait qu'elle va se faire tuer par elle aussi, enfin c'est son élève en gros, Big Boss à ce moment, enfin
Et
Snake.
Et la classe de cette séquence où t'as justement le nouveau Big Boss, donc Snake, son mentor,
le
qui
passage.
Arrive devant le président, etc., qui veut le féliciter devant
lui
les.
Il serre pas la main.
Il lui serre pas
c'est
la main.
Génial.
Tous les photographes qui sont là, lui, il sait qu'il a tué la femme de sa vie, son mentor, celle qui a sauvé la nation. Le mec, le président en face, qui traite de traître, justement, le machin, là, voilà. Et il lui serre la main là devant tous les photographes, genre vas-y, on prend la photo, toi, héros de la guerre, etc., qui nous a sauvés.
Et Snake,
il est
fier, il le regarde.
Il se casse pas la
main.
Putain,
quoi.
Et là, j'ai des frissons,
moi aussi. Et petit détail.
Et Revolver Ocelot qui est derrière.
Voilà, petit détail sympathique. Revolver Ocelot, dont on parlait tout à l'heure, qui est extraordinaire, il est à la fenêtre et il observe la scène.
Oui.
Il faut appuyer sur
oui.
Mais il faut
appuyer
très vite
pour le voir.
Machin,
voilà. C'est caché.
J'ai envie de refaire MGS3. Ça y est, c'est bon.
MGS3, c'est une tuerie.
Pas le début, je trouve. Le début
est splendide, MGS3.
Enfin, ils auraient pas dû se faire chier avec.
Des serpents,
du calme les
des
enfants, du calme.
C'est
non mais
génial.
La PS3, la PS2 était pas la bonne console entre guillemets. C'est-à-dire que le fait d'aller dans les menus pour changer à chaque fois, pour changer de truc, ça load, c'est chiant,
ouais.
Ça te coupe le délire. Et moi je trouve que le jeu décolle à partir du moment où tu montes cette échelle avec la musique qui part.
C'est l'échelle
c'est
éternelle.
Et ça monte pendant 2 minutes et tu
avec
montes
la
et
musique.
La musique. Et à partir de là, pour moi le jeu c'est une montée en puissance non-stop et là tu surkiffes. Mais le début c'est un peu. Mon gun 55-25. Ah, j'adore la guerre. Putain, je vais bouffer des caïmans. Et je me suis fait chier, là, honnêtement. Mais après, c'est extraordinaire.
Bon, Trash, je te demande pas quel est ton personnage préféré. Toi, t'en as fait qu'un seul, donc.
Michael Schumacher.
J'ai...
c'est ça.
Non, c'est un jeu simple de la fin, c'est Lewis Hamilton. Attention. Attention. Non, mais moi, je suis comme Julo, c'est Psycho Mantis, Revolver Ocelot, parce que je les ai rencontrés dans le premier. Voilà, c'est tout. C'est simple. Le problème, c'est que Psycho Mantis, tout le monde m'avait parlé de ce qui allait se passer, etc.
Ah, donc on t'a cramé la surprise.
J'avais zéro
en fait.
Surprise,
ah,
et,
dommage, ouais.
Et effectivement, spoiler dans Metal Gear, je crois que c'est pas bon, quoi.
Non, à ce point-là, surtout en plus, à ce point-là, vraiment,
voilà.
C'est quand même, c'est non seulement un des meilleurs moments du Metal Gear Solid 1, mais c'est un meilleur moment de jeu vidéo tout
voilà.
Court, quoi.
Donc,
c'est...
effectivement,
c'est. Et vous rappelez
un
la première
peu
fois
dommage.
Que vous voyez Psycho Mantis d'ailleurs ? C'était good girl.
Ouais.
Oh, il est flippant, il est malsain.
Dans
tout,
l'ascenseur, quand il y a Meryl qui monte et tout.
Puis il apparaît comme ça. Et c'est un côté. C'est, franchement, c'est l'épisode où il y a le plus de
sexe.
De fantastique, quelque part. Des
hommes qui lévitent, je suis pas d'accord.
Des hommes qui disparaissent.
Mais je trouve. Alors, justement, bon, moi je les ai
non,
pas
le
tous faits.
Le 4.
Fait.
Bah,
je
le 3,
pas...
le 2, ils sont.
Ah oui, le 3
aussi. C'est très terre à terre.
Ah bah attends.
Oh bah le stick, c'est haut.
Non mais
t'as déjà vu une rivière avec
des morts. Mais non, mais t'es en plein cauchemar. C'est pour ça que d'ailleurs tu dois reprendre la pilule pour te réveiller.
Oui.
C'est une vision de son esprit.
Exact.
Oui, il est peut-être moins SF, t'as raison.
Ouais.
Mais je trouve que l'équilibre justement du. Moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. De... Alors, je n'ai pas fait le 3 machin, donc moi, j'ai pas la vision globale de l'ensemble.
C'est
mais
James Bond, hein, le 3.
Dans ceux que j'ai fait, c'est le premier que je préfère, le premier Metal Gear Solid 1 sur
ouais.
PS1,
ouais.
Justement parce que le fantastique est saupoudré à ce moment-là par Psycho Mantis, et tout le reste, c'est l'anticipation. Donc, alors que j'ai eu vraiment la sensation dans Metal Gear Solid 2, avec Vamp, etc., dans le 4, pareil, que t'avais des boss, mais vraiment complètement délirants, avec des pouvoirs de ouf. Alors, tout est évidemment
t'as
plus
toujours
ou moins
des
justifié.
Boss un peu délirants, mais alors délirants
ouais.
N'étant
alors,
pas forcément drôles, mais
alors, souvenez-vous
deux,
des boss
dans
du
deux,
premier.
Il y a Fatman qui est nul, mais à part ça, franchement,
ils sont bien. Hein.
Ils sont tous bien, et vous vous rappelez de Fortune.
Mais bien sûr, ouais. Mais c'était
génial.
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 Moi j'ai l'explication. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'explication pour
bah,
parce
oui,
que
moi,
c'est Nana qui ne prend
géniale.
Pas les balles.
Oui, parce qu'elle est
qu'elle
soi-disant.
A de la chance
ouais.
En fait, la
ouais.
Bonne fortune. Et
alors
en fait,
c'est vraiment
non.
Ça.
Il y a une vraie explication.
Ah,
bah
ouais.
Oui, c'est
ça.
Une vraie.
Non, il y a autre chose.
Un coup de
ouais,
tu les vois.
Mais oui.
Tu les vois. C'est encore un coup de Revolver Ocelot. Il est parti.
Mais oui. Et c'est pour ça qu'il
les voit
à la fin.
Mais
rien, il le fait.
Il est parti.
T'as la chance. Bim, t'es mort. Et je trouve ça génial. Parce que la meuf, elle comprend pas. Elle croit que c'est bon, depuis que je suis petite, etc. Toutes les
elle
balles
peut pas
même, elle est super dépressive, parce qu'elle
dépressive
peut pas mourir, elle te demande de la tuer, et puis les
c'est
balles
génial.
L'évitent, c'est génial.
Et même Vamp, hein, il est assez fort. Hein. La première séquence avec Vamp, tu flippes. Hein.
Il reste très mystérieux.
Non mais, oui,
tout,
mais
tout du long.
Le problème, c'est que ça va tellement loin. Psycho Mantis, en plus, ça touche à des thèmes simples, c'est-à-dire la télépathie, la télékinésie, tu vois, enfin la base de tous les soi-disant pouvoirs que le cerveau humain pourrait avoir.
Des trucs qu'on fait assez régulièrement.
Vamp, c'est un immortel vampire qui est à fond dans son trip avec un truc au milieu du crâne.
Mais il faut savoir, attention, que c'est parce que MGS2, il n'a pas eu le temps de le finir. Et à la base, Vamp n'avait pas ces pouvoirs-là. c'était Chinaman.
Ah oui, il a réuni deux boss en fait en un.
Voilà,
en
dont un,
seul,
un que vous ne connaîtrez jamais, qu'on ne connaîtra jamais, qui s'appelait Chinaman et qui était donc un immigré asiatique vivant à New York, parce que le jeu se passe à New York ou dans
mais
la
il y a d'ailleurs toute
New
cette
scène-là
qui a disparu aussi.
Ça et qui du coup lui avait ses pouvoirs de se transformer en espèce de dragon dans l'eau et de marcher dans la flotte. Et Vamp n'avait pas ces pouvoirs-là de marcher sur l'eau, etc. Comme on le voit dans MGS2.
Bah oui, mais enfin bon, tu vois, quand tu évoques ces trucs-là, effectivement, ça n'apporte que de l'eau à mon moulin en me disant, bon, j'ai adoré aussi les rencontres du point de vue ludique, hein, si tu veux, mais pour moi, ça allait trop loin par rapport à tout ce que j'avais aimé dans Metal Gear Solid 1, qui était vraiment juste une pointe de fantastique, avec des choses qui sont vraiment familières pour tout le monde.
Je peux comprendre, mais est-ce que la fin d'MGS2, t'as pas fait, oh putain, parce que pour moi, c'est l'une des plus grandes fins de l'histoire du jeu vidéo.
C'est clair.
Ouais, vraiment, hein. La remise, la mise en abîme du joueur, etc.
Et je n'encaisse toujours pas d'ailleurs cette énorme faute raccord, puisqu'ils ont dû supprimer les Twin Towers.
Alors,
oui. Mais ça c'est un impératif qui était dicté effectivement par l'actualité.
Putain,
alors rappelons cet incident effectivement. Donc
le jeu devait
le 9 septembre arrive, voilà, les Twin Towers disparaissent.
C'était le 11.
Non, c'était le 11 pardon.
C'est bon. Tu peux partir.
Non, l'actualité.
C'est pas comme j'ai dans la tête, tu sais qui s'affiche et c'est le 0.
Le jeu sortait quelques jours après et donc à la fin du jeu, tu affrontes Solidus sur la baie de New York et
sur le truc de Wall Street.
Ouais, carrément. Et il y avait donc une scène avec les Twin Towers. Donc on sait pas si elles se détruisent ou quoi, parce que finalement personne n'a jamais vu cette scène. On sait pas ce qui se passe ou si elles sont juste là. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, dès que les Twin Towers apparaissaient, même si elles étaient pas détruites ou quoi que ce soit, hop,
Spider-Man.
On coupait.
Spider-Man,
on coupait. Il fallait pas faire apparaître les Twin Towers. C'était faire une trop d'honneur aux terroristes.
Tu sais qu'à mon avis, en fait, ils ont pas coupé grand chose. Parce que j'en avais reparlé avec lui, genre.
Non, mais même si c'est deux secondes. C'est-à-dire que t'as un moment au début du jeu, ils sont là, et puis d'un seul coup, ils sont tous là en train de vibrer dans tous les sens. C'est pas ce qui s'est passé. Et il manque
le moment où.
Le bateau rentre.
C'est pas un bateau, comment il s'appelle? C'est le G-Unit ou. Merde, le GW, enfin l'espèce de méga truc là, arrive dans la baie effectivement de New York et vers Wall Street et compagnie.
Bon, et percute.
Il percute. Bah, il nous manque ce moment là.
Bah ouais. Mais c'est ça. Ils sont là sur les flots tranquilles et puis d'un seul coup ils sont tous en train de.
Là honnêtement ils étaient vraiment dans la merde. Là. Il fallait vraiment qu'ils lancent le jeu et là ils ont fait cut point. Mais je pense qu'on a raté
vraiment
10 secondes de cinématique, pas plus. Parce que on peut les voir.
C'est mal connaître Kojima ça.
Non mais sans déconner.
Il y a eu tout un effet de style.
Parce qu'attention, si vous êtes un méga fan de Metal Gear, il y a dans les documents of Metal Gear, donc un DVD, etc. Moi, je l'ai. Tu peux voir tous les modèles 3D du jeu, de MGS2, etc. Les décors, les personnages, blablabli, blablablo. Et donc, t'as la zone avec les Twin Towers. Et tu vois clairement là où est le J-Unit, machin et tout. Je pense vraiment que c'était un cadrage. Par rapport à là où ils se trouvent et machin.
Si c'était juste ça, ils auraient pas pu virer les Twin Towers de la cinématique.
Bah, c'est le moment où la caméra était plus basse, on les voyait, le truc fait. Moi je pense pas qu'ils touchent les Twin Towers. Hein. Parce que tu vois le décor cassé et tu vois le décor pas cassé. Et les Twin Towers sont vraiment loin.
Ah ouais. Bon, enfin bref. Ça m'avait.
Mais c'est mal coupé. Pour un truc cinématographique, effectivement, ça fait un peu cut.
Ah, c'était une coupe terrible.
Ouais. Enfin bon.
Pour le rythme.
Mais il y a eu d'autres choses qui ont été supprimées aussi de Metal Gear Solid 2. Non ? Par rapport à New York et tout ça.
Je crois pas.
Le jeu.
Le jeu.
Comme quoi.
Non.
C'est des rumeurs après qui disent que normalement il y avait une séquence où on jouait un peu plus Snake et justement qui retrouvait Raiden, etc. Quand on est sur la plateforme pétrolière, etc. Mm-hmm. Très honnêtement, c'est des rumeurs.
Et tu n'accordes aucun crédit aux rumeurs, ni aux anecdotes, ni aux ragots.
Si, mais en l'occurrence.
Sur ce point particulier, non.
Non. Par rapport à tout ce qu'il a dit après, machin, etc., où il a parlé de plein de trucs, pourquoi il aurait jamais parlé de ça ? Alors qu'il a dit j'avais tel personnage de près, je l'ai pas fait, j'étais frustré parce que je voulais faire ça.
Oui, c'est pas comme s'il avouait pas.
Voilà, ouais. Et il a jamais dit qu'il voulait faire ça.
Il a toujours été très transparent sur ses projets.
Franchement, assez, ouais, quand même. Et d'autant plus maintenant avec Twitter.
Alors on parle beaucoup de Kojima, mais c'est évidemment pas le seul grands noms de la série. Il y en a beaucoup d'autres qui ont participé à en faire quelque chose d'aussi culte aujourd'hui. Tu as vaguement parlé tout à l'heure, quand tu étais à Kojima Prod, de Shinkawa, qui est quand même celui qui a donné finalement un visage à tous ces personnages, parce que c'est lui l'illustrateur, c'est lui le directeur artistique en fait.
Ah bah avant qu'il soit là, vous avez qu'à voir des illustrations de Metal Gear et Metal Gear 2
oui.
sur MSX.
C'était
NES.
Pas la même époque en plus. Hein.
Ah franchement, c'est ringardos. Hein. Ah bah oui. C'est
alors
Terminator.
Snake n'avait aucun sex appeal. Hein.
Ah là, t'aimais pas ?
Ah, pas du
tout. Là, il fait un peu jeune premier. Tout.
Ouais, il fait un petit peu.
Il fait 13
années 80. Quoi. Sur ses débuts un peu.
Voilà, oui, c'est, oui. Ça.
Ouais, c'est ça.
C'était la même époque. Et d'ailleurs, c'est des références communes avec Predator,
oui,
avec
bah,
tout ça. Il y a des choses.
Et donc, Yoji Shinkawa est arrivé à l'époque de Metal Gear Solid PS1. C'est lui qui a posé, en tout cas qui a convaincu Kojima d'intégrer un ninja cybernétique, un cyborg dans
quelle
MGS. Parce qu'à la base,
qui
il
n'était pas
n'importe
qui d'ailleurs.
Ah bah non, non. Et puis il l'a dessiné en fait, il a fait putain, ce serait cool d'avoir un ninja et tout machin. Et Kojima a fait putain, ouais. Et donc il a fait revenir Grey Fox. Hein. Et depuis, bah, ils sont main dans la main. Il est là depuis le début sur toutes les productions Kojima Productions et donc sur tous les Metal Gear. C'est lui qui design les mechas, donc les Metal Gear, les personnages et surtout maintenant, c'est lui aussi qui supervise toutes les cinématiques, donc le rendu visuel, la palette de couleurs et compagnie.
D'ailleurs, on peut actuellement assister à une exposition exceptionnelle hein, de l'œuvre de Yoji Shinkawa à la FNAC.
À la FNAC et reparti.
Dont le vernissage a eu lieu le 8.
Le mardi 8,
voilà,
8 juin.
Juin.
C'est-à-dire.
C'était
quelques
il y a
jours.
Quelques jours.
Effectivement, et puis il y a la possibilité d'acheter. Il y a 99.
Il y a 99 exemplaires en France, mm-hmm. en fait, et qui coûtent 85 euros, ouais. avec 4 ou 5 modèles.
Et franchement, il y a des beaux trucs quand même.
Et ouais. vraiment,
donc
celui
y a 5,
de.
Il y a 5 illustrations différentes,
ouais.
Et 99 au total.
Mm-hmm. Voilà, et celui de Snake Eater est vraiment. Splendide.
Et alors je peux vous splendide. Assurer que c'est une vraie exclusivité française parce que j'ai été là quand Yoji Shinkawa a donné ses originaux et alors je peux vous dire que vraiment il a fait comprendre avec le regard.
Attends, c'est tous des originaux les 99
Non. Les 99, c'est des reproductions des originaux.
D'accord,
okay.
Mais
c'est
sérigraphie numérotée en fait.
Ceux qui sont à la FNAC sont les originaux de Shinkawa dessinés par Shinkawa, etc. Et je peux te dire qu'il a bien fait comprendre par le regard à Cécile, où j'étais là, etc. Tu les perds pas. Voilà, donc c'est.
Ça
les...
va, c'est pas Picasso non plus. Hein.
Bah, mais... franchement,
ah,
c'est un... honnêtement, il a un putain de style. Hein.
Il a un trait et un style effectivement très particulier qui a été plus ou moins repris par d'autres. D'ailleurs, on a par exemple celui qui a travaillé sur le remake de Prince of Persia que toi tu aimais beaucoup faisait
ouais.
beaucoup de speed painting qui correspondait beaucoup à ce
ouais,
style graphique là. Et c'est vrai qu'il a gardé ça du début jusqu'à la fin. En fait, depuis qu'il a commencé chez Kojima Prod.
Et d'ailleurs, en parlant de la patte graphique de Yoji Shinkawa, il faut vraiment, je pense, saluer la direction artistique graphique de Peace Walker, hein, qui est dans les cinématiques juste exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on dépasse.
Mais c'est pas Shinkawa.
Ah, c'est pas Shinkawa.
C'est sous la direction de Shinkawa.
C'est sous la direction, d'accord.
Oui, mais c'est pas lui.
C'est pas lui qui
non,
a dessiné.
Non, c'est un Australien.
Australien, oui, pardon.
Ah, donc il faut saluer cet Australien qui a fait un travail exceptionnel parce que véritablement, les cinématiques, même celles qui sont jouables, sont superbes.
Mais
et c'est vrai que le style change
c'est
légèrement.
C'est comme Metal Gear Bando dessiné.
Exactement, qui s'appelle Graphic Novel. Chez nous, Metal Gear Graphic Novel et qu'on peut acheter sur le PlayStation Network pour regarder sur la PSP. Et bah, tu devrais aimer d'ailleurs parce que c'est vraiment superbe et c'est toute l'histoire de Metal Gear Solid, le premier. Refaite en BD animé comme
et
ça.
Ils ont sorti deux aussi.
Et le
alors
2 est sorti au
France,
Japon,
hein,
mais
ouais,
pas
ouais.
en France. Et c'est bien dommage. Moi, je me serais rué dessus. Ça coûte 7 euros, je crois, un truc comme ça. Et franchement, ça dure des heures. C'est mortel.
Alors, ça, c'était un petit peu l'aspect graphique, hein, quand même. Mais il y a aussi les musiques.
Superbe.
Alors, il y a le fameux thème de Metal Gear.
Qu'on n'entendra plus.
Qu'on n'entendra plus. Pourquoi, Julien ?
Eh ben, il y a un petit problème. C'est qu'en fait, un
le
jour...
Le ta-na-na, na-na-na-na-na.
En fait, je vais reprendre mes notes. Hein, parce que voilà. Alors, en fait, en 1974, c'est-à-dire... 10 ans, hein, voire un peu plus, 13 ans avant la sortie du premier Metal Gear, il y a un compositeur russe qui s'appelle Svyridov qui a créé une partition qui s'appelle Metal.
Non, ne me dis pas qu'il y a du plagiat là-dessus.
Bah écoute,
quand on les écoute,
allez non, pas possible.
Allez sur YouTube, etc. Tapez le truc, et franchement, le truc qui s'appelle Metal, Metal Gear, machin, Metal, bon, déjà c'est assez proche. Et c'est.
C'est exactement la même.
Non, c'est une blague.
Non, non, c'est exactement la même ligne mélodique. Ils l'ont fait écouter à Kojima d'ailleurs, et la vidéo est extraordinaire.
La vidéo est extraordinaire parce qu'il sait plus où se foutre.
Non, non,
il rigole.
Il était pas au courant.
Bah non,
il était pas au courant.
Et il regarde le CD, il fait « Oh, c'est vachement bien !» et tout. Il parle à son producteur avec des grands sourires. Je pense que dans sa tête,
oh,
ça s'appelle « Tuez-le. » Voilà, donc ce thème-là, tu ne l'entends plus depuis MGS2. Il a été remplacé par d'autres thèmes, etc., qui sont en train de s'imposer.
Il a été légèrement modifié, mais il me semble que dans le 3, il y a quand même un thème qui est légèrement similaire. Non, il n'est pas dans le 3.
Non.
Non. Le dernier 4, Metal Gear où t'as ça, c'est le 2.
À la guitare, etc. C'est plus du tout le truc. Et ça a été repris par Harry Gregson Williams.
Voilà, donc un autre grand nom quand même de la musique.
Ah hein, bah oui, voilà. Hollywoodienne, entre autres. Oui. Qui a signé la partition de
The Rock,
Persia aussi. Dernièrement. Et The Rock.
Excusez-moi de vous couper, mais vous avez tort. Excusez-moi de vous couper, mais vous avez tort. Parce que dans Snake Eater, la musique introduisant juste avant Way to Fall, qui est donc, j'ai enfin retrouvé la musique du générique final, la musique, donc le passage instru juste avant. C'est introduit par tin 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 et en fait ça fait partie du générique final.
Alors ça a peut-être été découvert après MGS 3.
Ah.
Mais en tout cas depuis MGS 4, fini a pu.
Voilà. Mais voilà. Donc, MGS 3
a pu, Peace Walker a pu et à l'avenir a pu non plus.
C'est bien dommage. Voilà. Mais dans MGS 3 il faudrait vérifier. Mais il me semble que Way to Fall comporte cette mélodie.
C'est possible.
Bon, en tout cas, c'est bien dommage parce que cette musique héroïque, oui, on l'entendra, fantastique. Et quand on se matait les trailers de MGS 2, notamment à l'époque, mais juste, t'avais des frissons rien qu'avec la musique.
D'ailleurs, TA2PY qui avait aussi fait certaines instrumentations sur un certain Suikoden.
Ah oui, autre grand nom, effectivement. Donc il y a d'autres noms, évidemment. Il y a aussi.
Il y a Nobuko qui a fait la BO de Peace Walker qui est mortelle. Hein. Qui est vraiment mortel, c'est-à-dire c'est un épisode PSP, ces petites consoles nomades, machin, etc. Les musiques, elles défoncent, c'est vraiment de la qualité de MGS. Et Norihiko Ibino, que moi je porte quand même assez dans mon cœur, et que toi aussi forcément, parce que c'est lui qui a quand même fait... Parce qu'on parle toujours d'Harry Gregson Williams.
Oui, mais lui il fait le thème principal.
Il fait le thème principal.
Après, les musiques en jeu, c'est d'autres.
Dizaine de morceaux maxi. Et tout le reste, depuis MGS 2, MGS 3 et un peu MGS 4, c'est Ibino. Peace Walker, celui-là a participé à 2-3 trucs et tout. Et par exemple, les thèmes que tu as aimés dans MGS 3, forcément, c'est Ibino. Puisque c'est lui. Le thème principal, le machin, c'est Ibino.
D'accord, très bien.
Donc, et si tu aimes la musique même de Metal Gear Solid 2, c'est toi qui m'avais fait découvrir ce CD. Il faut acheter
The Other Side.
Et là, c'est que du Noriko Ibino sur la musique d'MGS 2. Et c'est
alors, c'est quoi le nom entier du CD?
Metal Gear Solid 2, The Other Side. C'est une jaquette bleue.
C'est de l'import.
Ah oui.
Okay. Ouais. Donc pour les fans purs et durs. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Alors Kojima, il n'est pas tout seul au scénario non plus. Il est entouré. Il y a d'autres personnes importantes qui nous triturent les méninges avec leur scénario.
Tomokazu Fukushima. Voilà, co-scénariste de la plupart des épisodes de Metal Gear.
D'accord. Alors tu sais un petit peu quelle relation il entretient finalement avec Kojima, parce que lui, il doit s'arracher beaucoup plus de cheveux que les autres.
Là au Japon, là, lors de mon voyage, c'est un c'était un colosse, honnêtement. Ouais. Vraiment, donc, il est très grand, etc.
Il les aime grands et forts, quoi.
Et ce que je peux vous dire, par exemple, comme petite anecdote, c'est que le final de MGS 4, là, je vais pas spoiler, etc. Vous savez, le moment où Snake met son flingue dans la bouche.
Oui, ça, c'est.
Il y a une fin.
Oh,
je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient sur cette fin. Mm-hmm. On en a parlé, etc. Et que.
Non,
question sur savoir ce qui se passait après avoir mis le flingue dans la bouche.
D'accord.
Et qu'il y a eu beaucoup d'essais de fait de qu'est-ce qu'on fait ça.
Bon, ils sont demandés. Oui, à la base, ils avaient fait ça, mais ils n'avaient pas pensé. À la presse, c'était pas genre un cliffhanger de caca.
Cette fin n'a pas été la fin. Il y a eu 10 fins.
D'accord. Et mais la fin qu'ils ont choisie finalement est pas mal du tout.
Ah, moi, je la déteste.
Moi aussi.
Quoi?
Moi,
pour
moi,
le retour de Big Boss?
Ah, moi, elle annule tout. Ah non, mais c'est pas.
Non, c'est pas ça. C'est justement cette scène-là dont on parle. Ça va être compliqué de continuer à en parler sans spoiler. Hein.
Vous voulez spoiler MGS 4 là?
Ouais. Ah, bah non, on peut pas. Non, on peut faire ça.
Mais pour moi, la fin d'MGS 4, c'est un peu un scandale.
C'est regrettable.
C'est anti-jeu vidéo. C'est très décevant.
J'ai pleuré, je pense, comme si je perdais. Même pas un chien, quelqu'un de ma famille. J'étais tellement inconsolable que mon petit copain, ici présent, a dû me prendre dans
comment
ses bras.
Comment ça, ici présent?
Caché.
Oh merde, Traz.
A dû me prendre dans ses bras pendant des heures et des heures, tellement j'arrivais pas à m'en remettre et je sanglotais beaucoup et j'arrivais, c'était vraiment terrible quoi. C'était superbe et c'était terrible.
Ah bah putain, la fin que moi j'aurais rêvé,
elle était mille fois plus terrible. Là, oh là là.
Et puis il y en a un dernier quand
le
même.
Le conseiller militaire.
Motosada Mori qui est là depuis MGS sur PlayStation et qui mine de rien leur a appris beaucoup de choses parce que là j'en ai parlé avec les développeurs justement quand j'étais au Japon.
Ça va des détails genre la position,
grave.
Les flingues.
Et alors ce qui est mortel c'est qu'en fait du coup ils apprennent plein de trucs qu'ils peuvent pas mettre dans le jeu parce que c'est interdit.
Oh, ah c'est oui, génial.
Parce qu'ils veulent pas révéler la façon
non,
dont c'est fait.
Parce qu'en fait, ils leur donnent les vraies techniques de guerre actuelles. Et par exemple, il y a un truc qui a l'air tout con, mais ce qu'il dit, c'est dans la réalité, aucun soldat ne se colle contre un mur.
Pourquoi ?
Parce que les murs sont trop fragiles et que si tu tires sur le mur et que t'es collé contre, tu te prends l'impact de balle ou le béton ou je sais pas quoi.
Ouais,
qui
les éclats,
etc.
Ouais.
Donc en fait, jamais normalement un mec se met comme ça et fait comme as. C'est il est toujours à minimum un mètre devant le mur. Toujours de face,
ah, c'est
parce que le temps
ça.
Que tu te retournes et machin, etc. Et toujours avec un couteau dans la main. Parce qu'ils disent que
génial.
Si t'as...
Il peut y avoir quelqu'un juste derrière.
Voilà, ou si t'as un mouvement rapide, tu seras beaucoup plus prompt de faire ça. Et si ton truc s'enraye, ou il n'y a plus de balles, ou je crois que ce
voilà.
soit
donc,
toujours qu'il y a un flag.
Si jamais un jour vous avez besoin de vous coller contre un mur, évitez.
Évitez, surtout
sortez
pas.
Sortez toujours avec
pas.
Votre couteau.
On apprend
très important. Bah oui, voilà. Vous pourrez vous défendre pendant la Troisième Guerre mondiale, qui sera celle qui sera juste avant celle avec les cailloux.
mais en gros, ouais, ils kiffent grave parce que ça leur apprend plein de trucs. Après, apparemment, le mec, c'est un ancien militaire japonais, etc. C'est vraiment un killer. Une fois pour MGS3, justement, il les a amenés dans la jungle avec Kojima et toute l'équipe, etc.
Ils lui ont fait bouffer des serpents.
Il s'est mis tout seul. Il les a laissés tous. Il leur a dit rendez-vous dans 15 minutes. Votre but, c'est de me niquer. Je suis très vulgaire dans ce podcast. c'est de m'abattre. Il devait être 15 contre 1. Il a gagné. Ils l'ont jamais vu. Il les a tous défoncés.
C'était quoi, à base de paintball
ou ouais, paintball. Donc voilà, et donc ils apprennent vraiment aux conditions, comment
il leur a
faut
inspiré
se mettre,
des
les
techniques
gestes.
De CQC également, parce que CQC
voilà,
c'est vraiment un truc super développé dans Metal Gear. Et puis super
bah,
important, et notamment dans Peace Walker, où vraiment si tu n'arrives pas à maîtriser le CQC dès les 30-45 premières minutes, tu es mais dans une merde noire.
Bah tu l'apprends direct d'ailleurs.
Alors,
oui,
le CQC,
t'as intérêt à vite t'y faire.
Le CQC c'était introduit avec Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
Ouais.
On rappelle brièvement un petit peu ce que c'est cette technique avec le flingue et le couteau en
combat.
Même temps.
Ouais. Close quarter combat.
C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire la manière de réussir à tirer et à se défendre face à un adversaire qui te touche en fait, qui est proche de toi. Mm. Donc c'est une technique fictive en réalité. Hein.
Non, pas du tout.
Le CQC lui-même est fictif, mais il est élaboré de plein d'autres trucs.
De plusieurs
ça.
Techniques.
Ah, le CQC,
hein.
Ça je t'avoue, je sais pas. Mais effectivement, mais en revanche, les techniques sont des vraies techniques de combat, etc. Et moi, je me rappelle à MGS2, l'arrivée sur le tanker, etc. Avec les mecs qui se faisaient leurs signes, machin et tout. C'est quasiment la première fois dans un jeu vidéo où on voyait vraiment ça, quoi. Parce qu'avant, il y avait les jeux de SWAT et tout, mais les mecs, ils avançaient tous comme ça. Mm. Et là, les mecs, 3, 2, 1, machin. On se dit, putain, c'est super stylé et tout. C'était que vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment des symboles de je m'arrête, track. Quand je rentre dans une pièce, on rentre à deux trucs. Il y en a un qui reste derrière, de dos. Enfin, ultra immersif. Et voilà. Et une fois de plus, c'est Metal Gear qui l'a porté.
Si je puis me permettre.
C'est ça, oui. Des choses de SWAT, entre autres. Des troupes de choc. Enfin, de communiquer silencieusement et tout ça. Ouais. Et c'est ça, aussi, j'y reviens vite fait. Mais c'est pour ça aussi que j'apprécie, moi, Metal Gear. C'est le mélange des deux. Le mélange du délire fantasmatique du créateur qui introduit des personnages de ouf. Et de la réalité d'anticipation aussi, parce que c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, mais Metal Gear 4, la privatisation des armées, c'est quelque chose qui est réel,
bien sûr,
qui existe aujourd'hui et qui surtout aux États-Unis d'ailleurs, et qui est un problème qu'on considère peu et dont on parle peu finalement au global. Mais c'est intéressant que des gens comme Kojima, par l'intermédiaire du jeu vidéo, soulèvent ce genre de truc.
Alors au niveau de l'armement et des techniques de combat, etc., c'est Kojima, mais apparemment c'est surtout Shinkawa, parce que moi ce qu'ils m'ont dit là-bas, c'est qu'apparemment c'est un malade mental des armes et etc.
Shinkawa.
Ouais, c'est pas qu'il tire machin.
C'est leur Pierre Lepivin à eux.
Il connaît tout. Il peut les désassembler, les rassembler en 3 minutes 2. Enfin, même pas en 30 secondes. Voilà, mais c'est ça. Il connaît toutes les armes, toutes les marques, toutes les bidules. Blablabla, et que donc toutes les armes que vous trouvez dans le jeu sont ultra réelles. Tu les connais par cœur et qu'il prend le plus grand soin à réaliser et les modéliser avec la plus grande des perfections.
Bon. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous.
Bien sûr.
En même temps, en France, c'est un peu plus compliqué. Enfin, remarque, non, tu peux pas avoir d'armes à feu au Japon. Normalement.
Je l'ignore.
Il me semble que c'est interdit aussi. Hein. Tu peux pas en avoir. Enfin, bon,
je pense pas, non. T'as le droit de chasser comme partout.
Oui, il faut un permis et tout ça.
T'as pas le droit. Il y a pas d'armes.
Comme chez nous,
d'armée.
Comme chez nous, il faut avoir un permis.
Je pense si la vente d'armes était libre au Japon, je pense qu'ils seraient tous morts déjà.
Pourquoi ?
Une affirmation gratuite.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Fin de podcast. Bravo.
D'accord. Bon, Julien, j'ai un petit peu envie de te laisser le mot de la fin.
J'ai
eu
peur.
Hein
la fin.
On a fait un tour. Alors, vous avez pu ce podcast est à l'image de la série Metal Gear, c'est-à-dire un petit peu bordélique et long et sans, enfin, avec une structure
moi,
un peu bâtarde.
À vous entendre parler, j'ai l'impression que c'était un peu Lost, enfin, comme vous me racontiez un peu.
Mais il y a un petit peu de ça.
J'ai l'impression que c'est vraiment le bazar. Et
t'as rien compris.
Il sait pas où il va.
Alors.
Mais oui, t'as un fauteuil roulant à la fin également. Oui.
Non, mais attends. Moi, je trouve que cette allusion à Lost, c'est exactement celle que j'ai dite dans mon blog et machin. Pour moi, ce qui est génial avec Lost, c'est comme Metal Gear, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. D'accord. C'est-à-dire que c'est le kiff d'en parler, d'échanger, de voir, d'échafauder ses théories, de se dire putain, est-ce que tu penses que machin, quand t'es en train de voir les trailers 2 ans avant la sortie du jeu. Et finalement, même si nous on est des joueurs, donc on kiffe le jeu en lui-même, mais il y a plein de fois, moi sur MGS2, j'ai été déçu par des trucs. Dans MGS3, le début, je vous l'ai bien dit, m'a vraiment déçu. Dans MGS4, la fin, oh mon dieu, j'ai envie de jouer, je vois de la cinématique. Donc c'est pas parfait. Chose que je ne dirais pas avec Peace Walker, qui franchement est mortel.
Alors,
vraiment
mortel.
Oui. Mais néanmoins, malgré tous ces trucs-là, bah MGS, pour moi, en tant que joueur, ça fait partie des trucs que je ne retrouve nulle part ailleurs, même parmi les plus grands jeux. C'est le chemin, plus que l'arrivée.
C'est vrai que c'est une expérience complexe et riche, un sentiment qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi, c'est vrai. Avec ses défauts, avec ses qualités, mais bon, voilà. En tous les cas, une saga effectivement mythique, on ne pouvait pas la passer sous silence. Même en plein milieu de l'E3 2010, où il se passe certainement plein de choses en parallèle.
En plein milieu de la Coupe du Monde, putain.
Non, parce que personnellement, la Coupe du Monde, je m'entends pas de l'opération.
À l'heure où on parle, la France est éliminée.
Peut-être.
Pas encore. Techniquement, c'est pas possible.
Ah.
Oui. On peut être très mal barré, mais... Ah. Non, mais il faut quand même souligner que c'est le premier podcast qu'on fait en faisceau satellite en live, parce que nous sommes actuellement,
à Los Angeles. Voilà.
C'est pour ça que parfois, Julien, on parle avec un petit écho, et voilà. Ça nous a fait... Et on est holographique, pour ceux qui ont la vidéo, grâce au Premium. Alors, on n'est pas vraiment là. C'est ce qui peut expliquer certains problèmes de latence dans nos mouvements et ce genre de choses.
On a emprunté à un constructeur de console une technologie à venir pour des futures consoles holographiques. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que malheureusement cette vanne est vraiment merdique. C'était donc le podcast numéro 147 consacré à Metal Gear Solid la saga, avec Metal Gear Solid Peace Walker, l'épisode PSP et le vrai Metal Gear Solid 5. Qui, d'après notre Julien National, défonce.
Mais attention, pas qu'en termes de fans de Metal Gear. Les fans de Metal Gear, c'est un obligatoire. Et pour les autres, c'est un putain de jeu de la PSP.
Non, vraiment. Non, un épisode à ne vraiment pas manquer, parce que dès le début, pour les fans, il y a vraiment une révélation qui va vous faire porter des couches tout de suite.
Ah oui.
Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est vrai que c'est un très bon jeu qui, techniquement, est vraiment abouti, avec un aspect graphique qui est exceptionnel, avec des musiques exceptionnelles, avec un gameplay super super intéressant et
très
puis super
riche.
Complexe, riche. Donc c'est vraiment un épisode
c'est
à ne pas manquer.
60 heures de durée de vie, hein, quand même. Et sans déconner.
Minimum. Enfin, ça,
ah, vraiment,
tu peux
tout retourner.
Sans compter la
coop. C'est un Pokémon. Hein.
Oui, c'est ça.
Il faut attraper les tous. Hein, vous allez en chier, quoi.
Et en tout cas, ça sort demain sur PSP. Si vous n'avez pas déjà mis la main dessus, on sait ce que c'est que les Street Date, n'est-ce pas? En tous les cas, rendez-vous tous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Cette fois-ci en direct de Paris, puisque nous étions en simultané avec Los Angeles par satellite, évidemment. Un podcast dont le thème restera inconnu à ce moment-là.
Oui, enfin, a priori, bilan de l'E3, je pense.
Il y a de chance pour qu'on vous parle de nouveau de l'E3, effectivement.
Si je puis me permettre.
Oui, qu'il s'y passe plein de belles choses. Ça se finit à la fin de la semaine. Mais comme vous le savez, sur Gameblog, il y aura aussi encore après l'E3 deux tas de choses. On vous a fait préparer plein d'interviews sur place. Donc, il y aura de la vidéo, il y aura des news, il y aura plein de choses à voir sur Gameblog. Donc, restez à l'écoute et surtout, jouez bien.
Et moi, j'ai envie de dire que la prochaine fois qu'on parlera de Kojima, on parlera de la saga Zoé, parce qu'il y a plein de choses à dire et j'espère qu'on en parlera parce qu'il y aura un 3
qui arrivera. Tu sais qu'il y a un podcast.
C'est une
Zoé.
Promesse.
À Zoé 3, je m'y engage à le faire avec grand plaisir et je peux vous assurer que je lui en ai parlé à Kojima longuement.
J'ai un podcast à faire, lui a-t-il
dit. Voilà, et qu'il est très réceptif.
Il est parti méditer dans sa jungle après.
Il est parti regarder son cerveau.
Bon, allez, moi, je me casse.
Allez, ciao, à la semaine prochaine. Salut.